Avant-propos du livre « Le problème religieux » par Olivier Rogier d'Yasher Haïm Alevi. Section « Le but de ce livre » Sous-section « Une politique de survie » Malgré son titre, cet ouvrage n'est pas de religion, mais il est sur la religion. Il informe sur les thèmes majeurs et fondateurs de nos sociétés. Il condamne la méchanceté, la haine, la pitié et le mensonge. Il encourage la bonté, l'amour, la compassion et la vérité. Il ne prône aucun culte particulier, sinon celui d'un monde sans tromperie, sans crime, respectueux de la diversité et de la sauvegarde de la vie et des systèmes bienveillants qui réparent sans mépriser et dans la mesure du possible ce qui est involontairement volontairement détérioré. Il propose un point de vue original, cohérent et concret sur les anciens textes sacrés qui sont intrinsèquement créateurs de nos civilisations passées, présentes et futures. Il expose les fondements essentiels de la politique administrative des groupes humains sans considérer les diverses variations et les sympathies particulières relatives aux méthodes et aux procédures. Il supplie tous les dirigeants et tous les dirigés, élus et votants, comme administrateurs et administrés, de considérer la santé, l'aide et la justice, non pas comme des jeux d'entreprises privées à but lucratif dont les intérêts se trouvent dans l'accroissement des courbes statistiques du nombre des malades et des infractions, mais comme des obligations intrinsèques et inhérentes à la qualité de la vie elle-même, telles que le stipule la logique, les lois humaines fondamentales et la quasi-majorité des législations. Les gouvernements, de quelque confession et de quelque parti public, privé ou occulte que ce soit, laïque, religieux ou athée, et de quelque pays que ce soit, y compris les Nations Unies, doivent comprendre qu'il est dans leur intérêt vital et dans celui des peuples ainsi que dans celui de l'espèce de faire en sorte que ces courbes diminuent constamment vers le zéro, quelles que soient les augmentations ponctuelles, non dans un nuage nébuleux de chiffres globaux où seraient noyés quelques points invisibles ou masqués, mais au cas par cas, année après année, mois après mois et jour après jour. Il est naturel que la courbe de vie d'un être humain diminue avec l'âge et les traumatismes accidentels, mais il est anormal qu'elle chute à cause de la volonté d'autrui et à cause de l'absence d'aide, de soins médicaux et d'accès à la défense publique en justice, car ces choses sont les droits fondamentaux de tout individu au sein d'une société évoluée, juste, éthique, plurielle et prospère. La douleur sert à rien, elle enseigne rien, elle crée rien. La douleur est inutile en tant que cause. C'est un effet d'une mauvaise cause. C'est un influx nerveux qui est créé pour la signaler et pour attirer l'attention sur la nécessité de la stopper, que celle-ci soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle ou autre. D'après la théorie cellulaire, l'algie est le symptôme de la mort. Faire souffrir ou laisser souffrir, c'est tuer ou laisser tuer. Le contrôle de la démographie et de la faim n'est pas un problème sans bonne solution relevant de l'éducation et de l'organisation. La sélection humaine est un mauvais moyen, que ce soit par agression physique ou chimique, par abandon médico-social et juridique judiciaire, ou par quelque oppression que ce soit. Sous-section « Une utopie du bien ». L'avocat ou le juriste, et le docteur ou le soignant, comme les magistrats et les enseignants, n'ont pas à avoir pour but des bénéfices financiers, mais doivent travailler avec des moyens financiers, afin d'abaisser constamment leur courbe d'activité de réparation grâce aux activités de formation continue, de recherche et d'éducation, et grâce à l'augmentation de la courbe de vie de leurs clients qu'ils ont la responsabilité d'entretenir au nom de l'État. Un tel fonctionnement est ce qu'une communauté faisant le contraire appelle l'utopie de la bonté, de la liberté et de l'égalité médico-sociale et juridique judiciaire, où règnent des lois et une justice aussi impartiale que bienveillante. C'est pourtant une chose qui est très facile à mettre en place et qui nécessite, afin de passer de ce qui est aberré à ce qui est correct, de connaître certaines données vitales et éternelles au sujet de l'organisation des groupes, et de changer de point de vue sur l'argent et sur le pouvoir. Un monde juste n'a rien à voir avec la technologie qui est par définition neutre, malléable et orientable, mais avec la répartition du travail et de l'assistance. Voici les caractéristiques fondamentales d'un véritable monde civilisé. On consulte régulièrement et gratuitement le docteur et l'avocat pour rester en bonne santé et pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. On signale sans crainte les problèmes et on dépose gratuitement les plaintes qui sont rapidement investiguées en toute transparence. L'abus, l'entrave, l'obstruction, le mensonge, la corruption et l'argument de la maladie mentale employée pour justifier les transgressions sont aussitôt sanctionnés. On n'attend pas que les victimes décèdent pour ne rien faire ou que les criminels soient enterrés pour ne pas les juger. En effet, les différents ordres de santé et de justice ne sont pas des organisations ou des entreprises privées à but lucratif chargées de missions de service public. Ce ne sont pas du commerce permettant de manger et d'acheter des maisons de vacances. Ce sont des services publics dont la gestion est suffisamment ardue et complexe pour l'embrouiller. C'est avec le salaire justement mérité et non gagné sur l'injustice du crime qu'on achète la nourriture et les articles de luxe. Tel est le bug de la société actuelle dite standard. Le système médico-social et de sa santé et le système judiciaire de la justice sont relégués au rang de magasins de jeux supervisés par le système politique du suffrage où le client du trésor public n'a le droit de se plaindre, subir quelque chose et de réclamer réparation que si on le lui autorise selon quelques critères arbitraires. Sinon, c'est lui le vaurien, et non parce que la règle législative lui procure ce droit fondamental. Une culture administrative, artistique et technologique, qui considère qu'une cellule fécondée n'a aucun droit de vivre sans souffrir, que même un embryon n'est pas innocent, que les enfants savent ce qu'ils font, que les adultes sont des esclaves et non des serviteurs de la société, et que les victimes sont des êtres méprisables sources de revenus, est un système défectueux géré par des fous dangereux qui ont l'opinion de procéder avec déontologie, équité et succès. Tant qu'une civilisation ne s'est pas écroulée, il est toujours temps de la réformer, car après, sinon, c'est trop tard, et peu importe les grands cataclysmes, puisque recommencer de rien ou de peu ne garantit jamais d'aboutir à une civilisation correcte, d'autant plus qu'on démarre sur les mauvaises bases d'un monde non soumis à son propre droit. Le problème n'a jamais été un peuple en particulier, mais ceux qui occupent les locaux de sa direction, à la même jusqu'à en exterminer d'autres pour voler leur territoire, au lieu de conquérir son propre corps et son propre esprit. Les adultes responsables qui agissent avec irresponsabilité oublient souvent qu'ils ont été des enfants non responsables, ignorant les véritables pensées des grands. La question à poser en justice, pour autant qu'on la pose, n'est donc pas seulement coupable ou non coupable, mais également pourquoi cela s'est passé et qui a provoqué et où laissé faire, par intention ou par négligence. Ainsi, la seule et unique équation logique pour la réussite d'une civilisation est très simple et il n'y en a pas de meilleure. Il y a santé et bien-être de l'ensemble de la société, sur les plans physiques, émotionnels et mentaux, si et seulement si chaque individu ne souffre pas, la courbe statistique de l'état de santé variant et approchant 100% relativement à l'âge. Sous-section, une civilisation de paix. La civilisation, comme la vie qui est à la fois relative et absolue, est aussi belle et majestueuse que fragile et sauvage. D'après le dictionnaire de l'Académie française, la civilisation est l'expression, à une certaine grande échelle nommée pays ou état, de la culture composée de l'ensemble des sciences et des arts d'un groupe, c'est-à-dire des connaissances, des coutumes et des idées de son chef et de sa majorité, qui sont conquises et consenties par les membres nommés citoyens, ou qui leur sont imposées de gré ou de force. Tout le monde désire vivre le but de la civilisation nommée paix et liberté. La paix de manger, de travailler, de penser, de dormir, etc., mais pas de commettre des crimes. La liberté d'étudier, d'agir, de construire, de s'amuser, etc., mais pas d'arnaquer. La paix et la liberté sont des vérités relatives et non absolues. Les absolus sont assez rares dans l'univers. On ne connaît que quelques dizaines de constantes universelles pour une infinité de variables déterminant les choses. Peu de données sont immobiles. Mais les espaces limités permettent parfois d'identifier des caractéristiques distinctives et persistantes. Lorsque des physiciens quantiques disent que l'observation conditionne la réalité, ils considèrent seulement l'impression sur la surface qu'ils observent, et pas l'opérateur caché qui manipule le flot des événements, créant les projections qui changent lorsqu'ils modifient la direction de leur regard. La partie animale psychopathe de l'esprit humain se retrouve alors confrontée à la plus grande des épreuves. Est-il une créature cherchant le bien et évitant le mal, ou est-il le créateur décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal ? Philosopher sur le bien et sur le mal est un débat stérile, car les criminels estiment que leurs actions sont leurs privilèges. L'intérêt des méchants qui aiment nuire se trouve dans le mal et ils trouvent ça bien. L'intérêt des justes qui aiment ne pas nuire se trouve dans le bien et ils trouvent ça bien. L'intérêt ne change pas le bien et le mal absolu et objectif, qui n'ont rien à voir avec les intérêts personnels et collectifs, qui sont le sujet d'études et de pratiques des relativistes subjectifs. Les intérêts, ça peut parfois être bien et parfois être mal, et ça relève parfois et souvent de la convoitise. Dire que la paix et la liberté sont le bien, et que la guerre et l'esclavage sont le mal, ne veut donc rien dire si on ne dit pas que ce sont des choses non pas d'un point de vue relatif au langage humain, mais d'un point de vue absolu au langage de la vie. Pour la vie, ce qui est bien est ce qui fait survivre et évoluer, tandis que ce qui est mal est ce qui entrave et fait succomber. Afin de clarifier le but de la civilisation, les humains se sont accordés sur la notion triviale de nuisance qui détermine les choses qui sont bien et qui sont mal en les définissant dans l'absolu et relativement aux objets et aux êtres dont on accorde le droit d'exister ou pas. Ainsi, une société qui fonctionne et progresse de manière adéquate considère que le bien et le mal ne sont pas des variables relatives, mais que ce sont des droits et des non-droits arbitraires et absolus associés au faire et au ne pas faire. La seule cause de la chute des civilisations, c'est le mal du crime qui résulte du non-respect des bonnes lois et de la vie. L'unique problème qui provoque la disparition des groupes humains est que lorsqu'il est possible de retirer les droits fondamentaux d'un ou plusieurs membres citoyens, alors il n'y a aucune raison de respecter la législation, puisqu'elle est déjà transgressée. Il suffit simplement pour cela que les gens qui y sont soumis décident de refuser de la respecter. C'est ce qu'on appelle le crime organisé, et c'est le problème. Car cette expression est l'antonyme du mot civilisation. Si le collectif ne respecte pas les règles, alors on peut faire ce qu'on veut à qui on veut tout en ayant la certitude de ne rien craindre, du moment qu'on est d'accord et qu'on est du côté de ceux qui sont d'accord, puisqu'il suffit que ce soit permis par une autorité, par un ordre ou par un comité. Si c'est possible, pourquoi ne pas le faire? Qui va en empêcher si l'autorité laisse faire? Alors pourquoi ne pas faire non seulement en sorte que le mal soit fait, mais également d'en retirer un bénéfice et de se convaincre que cela est juste et bon pour le collectif? Il n'y a même pas besoin de raison pour faire une telle chose. Il n'y a même pas besoin de hiérarchie ni de chaîne d'ordre. Il suffit juste d'avoir la permission et l'assurance de ne pas être arrêté, interrogé et inquiété, croyant à tort qu'il n'y a aucun lien et aucune autorité supérieure et ni même divine. L'idéal est de donner une très mauvaise raison aux gens qui aiment exprimer leurs bas instincts de haine et de rage, ainsi que le goût de la méchanceté et de la domination meurtrière que confère le pouvoir absolu de vie et de mort. Le mieux, c'est de faire croire à des personnes fautives qu'un acte de justice est accompli en faisant payer autrui pour ce qui a été provoqué, au lieu de gérer et de réparer les problèmes, les laissant ainsi devenir des criminels volontaires portant le masque enchanté, froid et hideux, de la vengeance maquillée de sainteté divine, dont les orbites sont obstruées par la négation de la culpabilité refoulée. Qui dénigre les victimes? Les criminels et les ignorants qui ont respectivement la conviction d'accomplir leurs devoirs et leurs travaux, et faire payer les victimes pour une sauvegarde qu'on leur refuse, relève du machiavélisme ou sinon de la stupidité. Retirer les droits médico-sociaux et juridiques judiciaires de qui que ce soit est injustifiable, indéfendable, interdit et illégal. C'est un très haut crime qui se passe de raison et dont les victimes n'ont strictement et absolument rien à se reprocher, car on les empêche de vivre et de prendre leurs responsabilités. Elles subissent une prise d'intérêt sur leur existence, et cela n'a rien à voir avec une condamnation à mort prononcée par un tribunal éthique qui s'interdirait de blesser et de tuer. À force de conditionnement, les gens croient que les droits médicaux sont d'être remboursés du paiement des soins, et que les droits sociaux sont de recevoir une allocation financière. Mais rien n'est moins vrai. Les droits médico-sociaux sont le droit d'être soigné et le droit d'être aidé, et par définition, cela devrait être gratuit. Quant aux droits juridiques, les gens croient de même que c'est le droit de recevoir des conseils et une prise en charge des frais de procédure, alors que c'est le droit de témoigner, assister d'un avocat et d'un expert, devant une cour de justice composée de juges, et pas d'un seul, et cela devrait être également gratuit. La gratuité charitable et altruiste de la médecine et de la justice, donc de tous les services publics médico-sociaux et juridiques judiciaires, et leur administration adaptée, correcte, sûre et efficace dans les meilleures conditions d'accès. telle est la civilisation définie par les lois françaises, européennes et mondiales en vigueur, et spécifiées pour tous, qui pourtant ne sont pas appliquées à une certaine quantité de gens grâce à des mensonges, à des omissions, à des dissimulations et à des obstructions. La voie du mal, le crime organisé, fait d'un état du droit respecté un état qui ne respecte pas le droit. Lorsque cela arrive, l'état garant de la bonne marche des choses n'est plus souverain du pays et du peuple, car non seulement il se comporte en ennemi, mais il commet un crime contre tous et contre lui-même, alors qu'il a tout pouvoir pour intervenir, non pour influencer, mais pour faire respecter la loi et l'ordre que les ordres désordonnent. Lorsqu'il y a dysfonctionnement des systèmes, c'est toujours la faute de l'État qui ne remplit pas sa mission contractuelle d'en superviser la bonne marche, et il n'a aucune légitimité à diriger et à administrer les affaires tant que les dysfonctionnements ne se sont pas interrompus et réparés. Il n'a pas le droit d'invoquer l'ignorance, l'inaptitude ou l'indépendance, ni même l'immunité comme argument de défense et de non-assistance, mais il peut le faire. Il peut laisser faire les crimes, tout comme il a le pouvoir de les faire cesser, puisque tel est son devoir envers la loi, la vie et le peuple. Si l'État ne se corrige pas et ne corrige pas ce qu'il gouverne, il sombre, car il n'y a pas de civilisation, pas d'humanité et pas d'évolution. Mais s'il procède à une réorganisation, à l'application des lois et à des réformes afin d'empêcher les infractions, et s'il change les mauvaises lois, alors il s'élève. Protéger la santé et l'existence est une nécessité essentielle. Mais capitaliser la maladie et la souffrance est une trahison. Sous-section. Une administration propre. Qui est le plus grand patron d'un pays? Celui qui le dirige, c'est-à-dire le chef de l'État. Parfois son poste est nommé président de la République et son comité de direction est le gouvernement. Au niveau mondial, c'est les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Au niveau local en France, c'est le préfet et le conseil régional. Au sein d'une cité, c'est le maire et le conseil municipal. Dans une maison, c'est le doyen et les parents ou les aînés. Tout groupe possède un chef et un comité de direction, même si une telle structuration n'est pas définie ou imposée. Les humains, même individualistes, sont généralement grégaires et désirent soit être le chef, soit participer, soit que quelque chose soit responsable de l'organisation et des décisions importantes. Le facteur critique de la cohésion et de la constitution de toute communauté se trouve invariablement sur une échelle graduée variant du modèle qui instruit et façonne au tortionnaire qui impose et enchaîne. Un bon chef n'a pas tous les droits de faire ce qu'il veut, mais il a le pouvoir et même l'obligation de faire appliquer le droit, de la plus grande à la plus petite des lois, non pour dire « faites ceci » ou « faites pas cela », que ce soit légal ou pas, mais « soignez et instruisez dans le respect des lois, des faits, des preuves, des victimes et des coupables, et modifiez les règles et les procédés injustes et dangereux. Sinon, le pouvoir, le droit et l'obligation du chef est de dissoudre et de limoger les comités et les administrateurs pour les remplacer. Tous les problèmes au sein d'un groupe comme de l'espèce proviennent de l'ignorance et des accidents et des crimes. Si le chef ne fait rien pour faire stopper un crime porté à sa connaissance, c'est non seulement de la non-assistance et de l'obstruction, mais cela devient également et de fait au minimum de la complicité. Il enfreint alors toutes les lois, car lorsqu'on retire avec son accord les droits médico-sociaux et juridiques judiciaires d'une ou plusieurs personnes, c'est qu'il participe à un crime injustifiable qui met son groupe en péril. Et cela n'a rien à voir avec de la justice, ni même avec une dictature bienveillante, mais avec une dangereuse et irresponsable tyrannie, voire avec une guerre absurde ou tout simplement de la folie. Il est une équation qui se démontre avec certitude en une phrase et qui stipule ce qu'affirme la science médicale et la plupart des lois territoriales et religieuses dont les buts est d'empêcher que cela se produise. Traumatisme corporel et maladie, plus absence de soins, plus retrait des droits, égale attentat à la vie. En effet, les traumatismes altèrent la vie, l'absence de soins précipite la dégradation de la vie, et le retrait des droits, autre que la détention en cellule carcérale ou vestimentaire sans torture physique, chimique et mentale, en cas de crime prouvé ou de folie scientifiquement démontrée, est de fait synonyme de plus haut crime tel que cela est proclamé de par le monde. Voici une assertion logique plus triviale mais moins évidente. Si une autorité refuse de communiquer, alors elle commet le plus haut crime. Puisque la communication est le principe fondamental de toutes les lois et de toutes les interactions de la vie, depuis les atomes jusqu'aux as en passant par les cellules et les êtres vivants, nous pouvons dire, si une autorité refuse de respecter la loi et la vie, alors elle commet le plus haut crime. Lorsqu'un citoyen n'a pas le droit de témoigner devant un tribunal au sujet des préjudices, de méfaits et de preuves, ni de réclamer enquête et réparation, c'est que la porte d'entrée est grande ouverte aux corruptions, aux obstructions et aux crimes. D'autant plus que les requêtes administratives et l'accès au droit sont un labyrinthe peuplé de gens qui n'ont rien à faire de la valeur de la vie, de la bonté, des lois, de l'éthique, de la justice et de la vie elle-même. Lorsque ceux qui ne sont pas élus n'ont pas la possibilité de se plaindre en haut lieu et de signaler des dysfonctionnements, il y a un très grave problème qui met en péril le pays lui-même, puisque seuls les élus ont des droits, et que pour les autres citoyens, ça dépend des élus et non de la loi et de la vérité, ni des faits et des preuves. Si ce n'est pas la loi qui soumet les humains, c'est eux qui la manipulent. Alors convoitise et crime règnent sur la justice et non l'inverse. La transgression qui n'est pas une erreur ni un véritable accident, que ce soit une infraction, un délit ou un crime, est illégale au sein d'une société humaine. Elle l'a toujours été et elle le sera toujours, car la mauvaise action volontaire et la nuisance à autrui, ainsi que dans une moindre mesure la négligence, qui porte atteinte au bien et à la vie des gens, réduisent la civilisation. Le meilleur moyen d'identifier des criminels qui agissent dans l'ombre est de déterminer ceux qui refusent de communiquer et qui méprisent, car ils ont quelque chose à cacher et sont coupables de cette chose, ce qu'il ne faut pas confondre avec les difficultés de communication résultant de surdité et de handicap. Le refus d'accorder l'accès à des soins médicaux corrects, efficaces et non nuisibles, ainsi qu'à une cour de justice, ne sera jamais un bon droit et un bien fondé, justifiable et défendable, tout comme permettre la mise au point, la fabrication et la vente de substances interdites qui détruisent la vie des citoyens kidnappés et torturés puis délaissés. Si des docteurs, qu'ils soient médecins ou dentistes, refusent de soigner une personne ou un groupe, l'un d'entre eux doit être désigné, et celui-ci doit alors accomplir son serment avec honneur et compassion, sans préjugés et sans nuire, car telle est la loi et le serment des praticiens. Idem pour l'avocat. Le pouvoir, c'est ce qu'on est physiquement, émotionnellement et mentalement capable de faire. Le droit, c'est ce qui est au sein d'un groupe autorisé de faire et ce qui est interdit de faire. Le rôle du droit est de soumettre le pouvoir. Lorsque le pouvoir est au-dessus du droit, alors il y a crimes écrits. Lorsque la santé et la justice sont administrées par des entités privées, même chargées de missions de service public, alors il y a risque accru de dérive et d'extermination d'une certaine portion de la population jugée indésirable. Un état de droit est au-dessous des lois, et non au-dessus. Lorsque l'état garant de l'indépendance de la justice laisse agir la corruption, l'obstruction et le crime en son sein, tandis que la santé est gérée par des entreprises privées au plein pouvoir, et qu'on retire les droits et les chances de vie des victimes afin de protéger des criminels, alors il a le devoir d'intervenir car telle est la loi en vigueur. Sinon, c'est qu'il est impliqué et complice, comme s'il gérait lui-même ces choses, puisqu'en réalité, c'est ce que par définition il fait même s'il délègue. Il est absolument inadmissible pour une autorité de prétexter quoi que ce soit pour justifier le refus de respecter la loi et la vie, car ce quoi que ce soit, et le refus de réparer ce quoi que ce soit, n'est retenu que contre cette autorité du fait de la définition intrinsèque, fondamentale et essentielle de la loi et de la vie dont est responsable cette autorité. Sous-section, une responsabilité claire. Toute souffrance provient malheureusement et uniquement de problèmes qui vont inéluctablement causer des ennuis. La responsabilité, pour un adulte, c'est le cas échéant avouer être l'auteur des problèmes, et être coupable si c'est volontaire, et dans tous les cas, les gérer et les résoudre ou orienter vers une autorité compétente, ce qui est alors aide et réparation. Sont responsables en mal les méchants et en bien les justes. L'irresponsabilité pour un adulte, c'est nier créer des problèmes ou les laisser exister, afin parfois qu'un résultat soit obtenu. Tous les criminels et tous les fous sont irresponsables. La non-responsabilité, c'est soit être enfant, soit ne pas être l'auteur volontaire des problèmes, à moins d'y être étranger. Les innocents et les victimes d'autrui sont non-responsables. Ceux qui font des erreurs sont parfois victimes de leurs actes. Les fous sont quelquefois victimes de ceux qui les rendent ainsi. Quels que soient les types de politiques administratives et les limites géographiques déterminées ou non, Une société civilisée est par définition organisée en état. C'est toujours la faute de l'État si son système éducatif n'enseigne pas aux parents qu'il ne faut pas laisser des petits-enfants sans surveillance, car il pourrait se produire des accidents où personne n'est coupable sinon l'État et les travailleurs qui les gèrent. C'est toujours la faute de l'État s'il ne fixe pas comme règle, ou si celle-ci n'est pas respectée par les adultes représentant l'État, qu'il ne faut pas laisser ensemble et sans surveillance des adolescents et des petits-enfants, car il pourrait se produire des agressions où personne n'est coupable, sinon l'État et les criminels dont le potentiel est identifiable dès la puberté. C'est toujours la faute de l'État s'il laisse les travailleurs méchants et pervers aux fous mal exercer leur métier et enseigner comment faire des choses malfaisantes et s'en prendre aux personnes généralement plus faibles ou souffrantes de traumatismes ou de maladies qu'ils ne soignent pas, car il pourrait se produire des interruptions de vie et tous seraient coupables excepté certaines victimes qui n'auraient pas été enrôlées et convaincues de participer. C'est toujours la faute de l'État s'il permet à des comités d'en haut, d'en bas et du milieu, publics et privés ou secrets, de décider arbitrairement, hors de la vue du peuple et sans recours possible, que des maniements et des attentats à la vie sont des actes permis. Il ne sert à rien d'accuser, de dédaigner et de discréditer les victimes, ni même de les traiter en criminels ou en ennemis, car faire cela c'est convoiter ou légitimer des intérêts maléfiques. Section « Le but de la religion ». Sous-section « La lumière de la vie ». Pourquoi des religions et des clans ? Une religion est l'esprit supérieur d'un groupe uni par des règles de vie. Des clans sont des groupes, des associations, des organisations, des confréries, des ligues, des alliances, des unions, des partis, des fédérations, des syndicats, des coopératives, des sociétés, des entreprises, des conglomérats, des holdings, des gangs ou autres. Pourquoi adhérer à une culture ou à une fraternité plutôt qu'à une autre ? À cause de l'ethnie ou des opinions ? À cause de nos parents et de nos familles ? À cause des seigneurs et des seigneurs ? À cause d'un racisme de couleur de peau ou de couleur spirituelle ? L'humanité est une seule espèce et une seule race dont les membres, qui existent de manière variée, affirment souvent utopiquement et parfois hypocritement que nous naissons tous libres et égaux en droit et en chance malgré les différences corporelles, sociales et linguistiques. Il y a plus de différence entre un homme et une femme qu'entre l'un d'eux et un singe du même sexe, car le chromosome Y diffère du X. Toutes les vies humaines ont la même valeur légale malgré les différences de gènes, d'environnement, d'éducation, d'aptitude, de responsabilité et d'intérêt, malgré la bonté et malgré la méchanceté. C'est ce que disent la majorité des lois et des conventions. C'est ce que démontrent la science et la religion. En effet, la loi est pour tous, religieux, juges, laïcs et étrangers, tel qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre Nombre 9.14. La position et l'inclinaison de l'os sphénoïde seraient en relation avec les sous-espèces du genre Homo. Le processus évolutif se ferait périodiquement, progressivement, et conditionnerait la bipédie et le développement cérébral. Le sphénoïde, en forme de siège ou de trône, est lié au complexe hypothalamo-hypophysaire. À sa droite, en haut, se trouve la région de la spiritualité mise en évidence lors des études scientifiques des états méditatifs. Certains revendiquent la loi du plus fort et le statut de hors-la-loi dans le but de dominer des groupes et des individus. C'est le contraire du leadership, et c'est une opinion qui relève de l'esprit de criminalité qui est moins évolué que le stade préhistorique de l'âge des cavernes pré-civilisationnelles. C'est de la sauvagerie d'une barbarie inculte pire que le monde animal où règne vengeance et crime. Le mot « sociopathie » se définit ainsi. Trouble de la personnalité souvent caractérisé par une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales et aux codes culturels, ainsi qu'aux émotions et aux droits des autres. L'occultisme, ou Kabbalah, se rapporte à la connaissance des secrets de la nature, de ce qui est caché et invisible aux yeux et au cerveau de confection standard, et le révèle. Le mysticisme utilise cette connaissance non pas dans le but d'arnaquer autrui et de commettre des crimes, mais de créer un sentiment de communion avec le divin ou cause première. L'art occulte noble a ainsi pour rôle d'impressionner et de manier les foules. Les méchants l'utilisent avec la maîtrise du temps, de la diversion et de la polémique pour faire croire que des forces surnaturelles commettent à leur place des choses qu'ils disent improbables. La tradition religieuse enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement. Mais qu'y a-t-il au milieu si l'esprit est comme la matière? Il est écrit au verset 1.5 de la première lettre de Jean, Dieu est lumière. Et en 17.21 de l'évangile de Luc, on ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. La science définit la lumière, ce qui permet de voir, comme la manifestation des changements des états énergétiques de la matière qui est composée de particules élémentaires qui sont le support de l'information et de l'organisation atomique. Les photons sont les particules quantiques qui constituent la lumière visible et invisible du spectre électromagnétique, depuis les ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Ils sont constitués d'énergie et de matière, d'une longueur d'onde et d'un corpuscule de masse supposée nulle, ou de 10 exposant moins 50 à 10 exposant moins 70 kg. Ils sont donc à la fois un mouvement périodique et un objet, c'est-à-dire une qualité et une quantité a priori indissociables. La physique théorique suppose que chaque chose de l'univers et l'univers lui-même serait composé de choses granulaires et indivisibles nommées cordes élastiques d'énergie vibrante de dimension 1, dont l'agencement serait organisé par un encodage cosmologique intelligent, tel un champ scalaire complexe statique, et formerait les particules de matière dimensionnelle, tel un champ vectoriel réel en mouvement en vertu de la célèbre équation E égale mc2, qui est l'équivalence de conversion des collisions et des frictions entre les masses de matière énergétique à travers l'espace. Selon la tradition, l'éther est l'agent médian rayonnant, vibrant et mouvant de la force vitale dont les deux éléments de base qui forment la vie sont le feu de l'amour du mental solaire masculin qui se manifeste dans l'air des souffles et l'eau nourricière du cycle lunaire féminin qui lie la terre des formes. Selon Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale, l'éther est un milieu privé de toutes les propriétés mécaniques et cinématiques, mais qui détermine les phénomènes. Un espace sans éther est inconcevable, car non seulement la propagation de la lumière y serait impossible, mais il n'y aurait même aucune possibilité d'existence pour les règles, les horloges et les distances. La notion de mouvement ne doit pas lui être appliquée. Les états qualitatifs et quantitatifs de l'esprit et de la matière sont alors définis comme une manifestation différenciée de l'information des atomes scintillant dans le néant. Par contrainte et ordonnancement, selon une propagation vibratoire déterminée ou intelligente du rythme, et par attraction et répulsion, selon un déplacement spiral et sensible ou émotionnel du mouvement. La Torah, le Pentateuque de la Bible, est comme un code informatique résultant d'une projection d'un espace multidimensionnel sur un espace à deux dimensions. On peut y lire que l'étendue, le firmament lumineux du champ de l'interaction électromagnétique nommé cieux, fut placé entre les eaux de la matière sèche nommée terre, c'est-à-dire entre les eaux d'en bas qui sont le champ de l'interaction faible-forte du noyau et entre les eaux d'en haut qui sont le champ de l'interaction gravitationnelle du nuage électronique. Les ténèbres obscures sont la manifestation en particules atomiques des particules élémentaires Tohu et Vohu qui forment l'abîme de la matière. L'interaction gravitationnelle se propage à la vitesse de la lumière selon la théorie de la relativité. L'esprit et la matière sont une seule et même substance, mentalement contradictoire et physiquement inséparable, qui s'enchevêtre en elle-même via de multiples structures géométriques dimensionnelles que la pensée essaye de saisir alors qu'il est impossible aux créatures d'un espace à trois dimensions de concevoir des choses qui ne peuvent être ni observées ni représentées. Au mieux est-il possible de s'en faire une vague idée aussi étrange et singulière que confuse et vertigineuse, parfois vaine et parfois fausse, même en équation. Se référer par exemple à l'équation de Schrödinger. Sous-section l'existence humaine. Au cours de son existence que la théorie cellulaire définit comme unique, de la conception puis de la naissance à la mort, l'être humain sait ou ne sait pas des choses. Entre ne pas savoir et savoir, il y a une échelle graduée de croyances, d'opinions et d'incertitudes pour lesquelles certains se battent ou travaillent et d'autres s'ouvrent ou se font détruire. Peu savent que c'est truqué, beaucoup disparaissent sans le savoir. Les médias et les œuvres humaines enseignent beaucoup de choses plus ou moins intéressantes. On peut apprendre que nous sommes formés, grâce au merveilleux pouvoir de la vie, d'un livre génétique écrit par de la poussière atomique mise en mouvement au rythme de la rotation particulière interactive. On peut apprendre que le plus grand pouvoir humain, c'est la démocratie et l'accord du nombre, peu importe la vérité ou les mensonges, et peu importe qui a raison ou qui a tort, ou ce qui est bien ou mal. On peut apprendre qu'après les lois de la nature et avant les autorités, ce sont les docteurs qui déterminent nos droits, ainsi que notre naissance, notre capacité de travail, notre condition de vie et notre mort. On peut apprendre que l'irresponsabilité, c'est rendre responsables les victimes sans les réparer, et rendre non responsables les criminels en leur accordant des avantages et des honneurs. On peut apprendre qu'il n'y a que trois raisons de commettre un crime. L'émotion de l'amour et de la haine ou la sensation du plaisir, la convoitise de l'argent et du pouvoir ou le confort de la possession, et la dissimulation de ces trois types de crimes ou la justification de la folie. Les docteurs nous font naître. Parfois ils nous soignent, et parfois ils nous rendent malades. Parfois ils arrangent nos dents, et parfois ils les arrachent. Ils décident si on peut travailler ou si on est invalide. Ils décrètent si on est sain d'esprit ou si on est fou. Ils signent notre certificat de décès. Parfois ils font une autopsie. Lorsque soigner n'est pas obligatoire, lorsque la législation affirme à la fois que le personnel soignant dispose du droit légal de refuser de soigner tout le monde et qu'il a l'obligation de porter assistance médicale aux personnes souffrantes et en danger, il y a un grave bug incohérent et le système affiche « fatal error ». Lorsque défendre n'est pas obligatoire, lorsque la législation affirme à la fois que le personnel judiciaire dispose du droit légal de refuser de défendre tout le monde et qu'il a l'obligation de poursuivre les malfaiteurs et d'assister les victimes, il y a un grave bug incohérent et le système affiche « fatal error ». Lorsque les autorités se passent de procès pour isoler et torturer des citoyens, quels qu'ils soient, c'est sous le régime de l'oppression et de la terreur qui n'admet pas de désaccord aux décisions, même erronées. La peine de mort et le choix de l'euthanasie ou de l'avortement ne sont pas des sujets de polémique au sein d'une société civilisée, car la première est bannie, et le deuxième est très sérieux et n'est employé que sur décision de justice, car l'espèce est majoritairement d'accord pour ne pas détruire et ne pas tuer la vie humaine, et pour dire que c'est le plus grand crime, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous ne sommes pas seulement des animaux, et parce que nous ne devrions pas nous comporter comme des monstres cruels. Dans tout groupe humain, quelle que soit la politique administrative et les conflits internes ou externes, toute justice occulte ou arbitraire, privée comme publique, même approuvée et exécutée démocratiquement, se trompe toujours et enfreint délibérément la loi, et c'est toujours un haut crime justifié par le mépris de l'obstruction et du silence. C'est un crime contre l'humanité qui, non stoppé, aboutit à son seul objectif, le plaisir du bénéfice du meurtre. Que celui-ci soit puni ou pas importe peu puisqu'il a été commis. Mais il est essentiel de faire en sorte de le stopper et d'empêcher que cela se reproduise. Sous-section, les justes et les méchants. L'aspiration humaine est ce qui est nommé le bonheur. Pour les justes, être heureux, c'est avoir des droits, ne pas souffrir, ne pas nuire à autrui, vivre comme on le veut, manger pour vivre, travailler au service de la société. Pour les méchants, être heureux, c'est retirer les droits de leurs victimes, les faire souffrir, leur causer des nuisances, les empêcher de vivre selon leur choix, leur enlever leur subsistance, travailler à leur nuire. Les gens qui trompent les gens ne peuvent pas justifier l'enchaînement des causes et des effets dont ils sont causes visibles et invisibles, connues et inconnues. Alors ils commettent le plus grand des péchés, sous-jacent à toutes les fautes, volontaires et involontaires. Ils refusent d'accorder le droit d'exister. Ils refusent de soigner, ils refusent d'aider, ils refusent de communiquer, ils dépossèdent et chassent, ils détruisent la personne, ils exterminent la vie. Les scélérats méprisent et font preuve de pitié au lieu de témoigner de la compassion et de faire mourir le mal pour l'enlever et pour révéler le bien. Le problème, c'est que si on les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent n'importe comment et ils propagent le mal génération après génération. L'amour du bien et du juste, et donc la bonne volonté et la compassion, sont la clé de l'évolution humaine, de la civilisation, de l'éthique, de la justice, de l'ordre et de la survie. La bonté est le facteur fondamental et primordial, car les apparences sont qualifiées de trompeuses. Sous-section, la connaissance du divin. Qu'est-ce que Dieu, au singulier, ou Dieu au pluriel. Au nom duquel ou au nom desquels, lorsque ce n'est pas au nom de l'anti-religion, beaucoup d'adultes font et ne font pas, et font faire et ne pas faire, beaucoup de choses plus ou moins justes et injustes, bonnes et mauvaises, souhaitables et non souhaitables, à eux-mêmes et aux autres, ainsi qu'à leurs enfants et à ceux des autres, disant mensongèrement, eux et nous sommes fondamentalement différents, eux vilains et nuisibles. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au verset 1.1 à 4, au commencement était le Logos, et le Logos était avec le Théos, et Théos était le Logos. Il était au commencement avec le Théos. Toute chose a été faite par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était Zoé, et la Zoé était cela, fosse des humains. Le mot Logos signifie « mot »,« parole », »,« ce qui exprime ». Ce sont les gènes de la théorie génétique. Le mot « théos » signifie « divin », »,« ce qui dirige ». C'est l'ADN. Le théos était le logos, car l'ADN contient les gènes. Toute chose a été faite par lui, car les gènes sont transcrits en ARN qui vont permettre de fabriquer les protéines. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, car les protéines servent à fabriquer les cellules qui constituent les tissus et les organes du corps humain. Zoé est un mot qui signifie vie, âme animée, ce qui bouge. Ce sont les ARN qui sont mobiles dans le cytoplasme de la cellule. Ce sont les ARN qui sont la vie de la cellule. Phos désigne la lumière, la conscience, l'esprit, ce qui regarde et contemple. C'est donc la pensée. Il est écrit en Genèse 1.3 selon la traduction standard. Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». La traduction littérale mot à mot de ce verset en Bereshit 1.3 est la suivante. Il aura dit Elohim, il apparaîtra une lumière. Par conséquent, il aura apparu une lumière. Elohim est le mot hébreu qui a été traduit par le mot Dieu en français. Souvent, quand on parle de divinité, occidentale comme orientale ou tribale, on parle de quelque chose qui est imaginaire et qui n'a aucune réalité lorsque ce n'est pas un leurre ou une diversion. Le mot « Dieu » provient de « Deus », lui-même issu de la racine indo-européenne « Deiwos », signifiant « lumière du ciel », et de « Dei », dont le sens est « luire » ou « briller » comme une aura de lumière. Ce mot fut inventé par des administrateurs grecs et romains pour définir le Créateur en tant que être suprême et désigne par conséquent Zeus, et donc Théos, fils de Cronos, qui est le temps de la vie. Les religions païennes et polythéistes étaient source de trop de problèmes, d'illusions, de conflits et de guerres et donc de désordre. Alors il a été créé ce concept religieux, Dieu, dans le but de réduire les querelles et les inconnus, les dieux, à un seul et unique principe, le Dieu. Mais une erreur fut installée dès l'origine. D'une part avec le maintien de la personnification mathématique ramenée à l'unité de ce qui est créateur, et d'autre part avec la confusion entre la cause, les faits et la délégation, parce que les premiers versets de la Torah ne furent pas compris. En effet, la lumière n'est pas une cause, c'est l'effet inhérent à l'expression de la cause première. C'est l'expression protéique de la parole des messagers provenant de la volonté déterministe manifestée par les gènes. Il y a dans la Septante une confusion entre Elohim et Yud et Vav et, l'Éternel, qui sont traduits de manière souvent disparate, aléatoire et sans cohérente par Théos ou Seigneur Théos, puis Dieu et Éternel. C'est presque comme confondre un microprocesseur avec la mémoire et le logiciel. Le Théos de Jean est en réalité Yud et Vav et, le code logiciel. Les évangiles parlent rarement d'Elohim, le processeur. Le Père fait en réalité référence au scribe Moshe, qui a transmis la doctrine d'Abraham. La connaissance religieuse s'acquiert en trois grandes étapes, quelles que soient les coutumes, les cultures et les rites ou les vocabulaires. La croyance inculquée aux enfants, la foi développée chez les étudiants, est le savoir acquis par la maturation des sacrements de l'instruction ou initiation. Certains systèmes ou philosophies de pensée affirment que tout est créé grâce au sexe, et que là se trouve le problème humain. Il n'y a pourtant pas que le sexe dans la vie, même si c'est important. La preuve en est que la sexualité ne commence à se développer qu'à la puberté, et les femmes qui sont le vecteur de la création de la vie ont une poitrine au niveau du thorax afin de montrer que c'est le cœur qui nourrit physiquement grâce au travail, émotionnellement grâce à l'art et spirituellement grâce à la sagesse. Section « Gouverner la vie ». Sous-section « Une brève histoire de Dieu ». Dans un premier temps, le monothéisme fut instauré sur la base du texte du Tanakh, la Bible, qui n'a pas été compris et qui a été falsifié au niveau du sens, de l'interprétation et de la traduction, car l'enseignement discutable et les indications souvent paradoxales et extravagantes des sages ont été rejetées en raison du fait que l'administration considère généralement comme une faiblesse de se soumettre aux règles de sa connaissance et de son pouvoir, alors qu'en réalité c'est sa force et sa puissance. Plusieurs mots hébreux, nommant des choses différentes, ont été mis dans un panier qui fut intitulé « Dieu ». Il fut inventé des histoires imaginaires au sujet de la volonté du Créateur et au sujet des comptes rendus des messagers que sont les prophètes et les rois. Puis des égrégores furent créés par les enseignants grâce à la mise au point d'un panthéon d'êtres surnaturels bons et mauvais afin de satisfaire l'insatiable imaginaire des enfants comme des adultes et de les dominer par le fantastique, par la séduction, par l'envie, par le mensonge, par la peur et par la souffrance. Certains se sont dit qu'ils allaient être ce tout-puissant, puisqu'ils avaient le pouvoir, et ils se sont mis à tricher et à tromper le monde. L'administration s'est identifiée à ses anges, à ses démons et à son Dieu, qui ne conçoit plus l'homme et la femme, mais qui est conçu par ceux qui décident ce qui est appelé la volonté divine. Alors le joker de l'impunité fut distribué à ceux qui parfois posent vaniteusement la question à ceux qui agonisent « Où est votre Dieu ?» Quand ce n'est pas « Qui est votre Dieu ?» pour après utiliser la sentence finale afin de prouver l'inexistence d'une duplicité édifiée dès le début du jeu. La question « Quoi est votre Dieu ?» est alors prohibée car elle amène au chemin de la vérité. Dans un deuxième temps, le monothéisme fut étendu à l'aide des écrits kabbalistiques que sont les évangiles et la révélation de Jean. Mais le personnage archétypal du roi Jésus, qui a reçu le Christ, fut porté au rang d'idole, transformant ainsi le sens des Écritures en dépassant de loin la simple vénération envers les patriarches. Un roi, Mélèque, est une créature agissante et opérante consciemment et involontairement en tant que cause, au sens de régner sur l'environnement, la matière et la vie, grâce aux observations, aux considérations, aux postulats et aux décisions. Christ est le don de la Torah via l'onction. Se référer au livre d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel et à la Révélation. Ce mot veut dire dévoiler, découvrir, lever le voile. En enseignant aux individus à idolâtrer le Fils unique de Dieu, au lieu de célébrer l'unicité des fils de l'onction, ainsi qu'à prier l'aide de statues inertes et sans pouvoir, et à demander aux morts d'intervenir dans les affaires des vivants. Les anges et les démons furent réduits au Père et au Satan, avant de renaître au sein du jardin merveilleux de l'imagination, de la peur et de l'espérance, où cohabitent l'enfer de la sorcellerie menant à la mort, et le paradis immaculé produisant l'absence de création. Dans un troisième temps, il fut créé un mouvement afin de recentrer le un chimérique, mais certaines ramifications portèrent son prophète au rang de divinité à l'aide d'une guerre sainte, qui n'est ni de Dieu, ni de la plume du verbe christique ou messianique dont le véritable sens n'est pas celui d'un sauveur mondial ponctuel, mais d'un révélateur personnel grâce au pouvoir de l'onction qui est le pouvoir de Dieu, et à l'aide d'une loi du talion vengeur mise au point et magnifiée par des administrations puissantes jouant à être le Dieu, qui pourtant interdit le meurtre, qu'ils maintiennent légalisé en toute subjectivité. Le véritable djihad, mot arabe signifiant « effort », faire un effort, pour s'améliorer, et la lutte contre l'ignorance et le mal en soi et autour de soi, sans jamais nuire à qui que ce soit, ce qui serait contraire à la volonté de Dieu. À l'aube du quatrième temps, Il fut constaté que depuis le dernier déluge, aucune tentative à travers les siècles pour solutionner le problème, jusqu'aux révolutions féroces du XVIIIe et aux guerres sauvages du début du XXe siècle, qui furent meurtrières par millions en l'espace de quelques mois, ne fut efficace, tandis que des groupes disparaissent éradiqués ou convaincus, et que d'autres naissent et grandissent, pour souvent être oubliés et parfois renaître. Alors pour résoudre ce problème et répondre aux exigences requises par l'organisation de la technologie, la laïcité, c'est-à-dire la gouvernance par un comité œcuménique interreligieux de laïcs, fut brutalement établie afin d'amener de nouveaux espoirs de justice, d'égalité et de liberté. Et avec elle fut créée une liste invraisemblable de sectes, de religions et de syndicats, car de nombreuses divergences créent de nombreux partis, et l'affrontement général. Pour savoir qui commande les individus, les banques, les tribunaux, les rues et les forces armées civiles, pénales et militaires est inévitable. Sous-section. L'échec de l'administration. Les protestations et les rivalités entre les différents groupes et religions n'ont apporté aucune véritable réponse concrète à la question de la civilisation, sinon parfois la radicalisation d'une justice sans procès et plus de conflits sanglants. Au fil des siècles, il est raconté beaucoup d'élucubrations noyées de vérités et de mensonges au sujet des divers ordres religieux et militaires, tels que les Templiers, les Rose-Croix et les Francs-Maçons, ainsi qu'au sujet de quantité de groupes exotériques comme ésotériques, d'inspiration occidentale et orientale ou encore nordiste et sudiste. Esclavage est le mot d'ordre. Esclaves ou esclavagistes qui luttent pour la liberté. Des esclaves qui ne savent pas qu'ils le sont-ils. Commandants et exécutants sont tous enchaînés, souvent par l'ignorance. L'esclavage est inexorablement corrélé aux écarts de revenus et de conditions de vie. Les peuples humains sont encore et toujours prisonniers. Les dirigeants ne le sont pas moins tandis que la souffrance et la misère sont fièrement portées comme un étendard de victoire à travers les estrades et les écrans du monde, ce qui piège l'administration qui habituellement et par défaillance fait acte de déni. Les associations réclament des dons mais ne répondent pas aux demandes d'aide que refuse de fournir l'administration qui prélève l'impôt. L'auteur ne nie pas parfois que certaines personnes soient aidées selon l'entière discrétion des volontaires et des bénévoles. Mais le lecteur peut vérifier cette assertion en cherchant le lien « demande d'aide » sur les sites web, en écrivant une demande d'aide ou en allant chercher directement de l'aide réservée à l'élite. Peut-être aura-t-il plus de chances que l'auteur qui reçoit chaque mois de grosses enveloppes d'appels de dons d'organisations réputées qui refusent de l'aider et de cesser de lui écrire. Voir le documentaire « Dans la jungle de l'industrie caritative » et « Le business de la charité ». Le but de la vie est de vivre et de savourer la vie sans nuire. Et s'il arrive un accident ou un malheur, la logique est d'arranger les choses et non de les détruire. À l'image de la lumière qui parcourt l'infinie distance de l'univers sans s'arrêter, toujours en se transformant, malgré les collisions. La matière est un piège dont seule la mort libère. Alors c'est par défaut fatalement conditionné que les humains croient de manière aberrée en rien ou en quelque chose avant et après la mort ou aux ovnis, et qu'ils se battent pour et contre des opinions. Généralement, ceux qui refusent de se battre ne peuvent que s'éteindre, et ceux qui s'affrontent périssent. Beaucoup s'ouvrent, parfois sans le savoir. De nos jours, comme depuis toujours, la musique, le théâtre, le cinéma, la presse, la télévision et Internet, qui sont de fabuleux outils de communication, d'enseignement, de travail, de loisirs et de démocratie, peuvent être utilisés pour le meilleur, mais ils sont également utilisés pour le pire. La désinformation, l'hypnose, l'influence et le crime. La cohabitation dissonante donne peu de bons résultats, et on ne peut que constater encore et encore le même échec qui provient d'un point de vue incorrect. Car nous avons maintenant une dictature médico-policière capitaliste plus cruelle et plus criminelle que jamais auparavant. Malgré l'union des nations, le problème de la guerre civile n'est pas résolu, et il ne fait que s'aggraver avec la mondialisation, car les croyances religieuses et philosophiques, comme morales ou éthiques et scientifiques, sont les racines des erreurs, des accidents non naturels, des fautes, des crimes et des mobiles. Le nombre des victimes ne fait qu'augmenter génération après génération, et les forfaits dont la cause est le bug administratif au sujet de la santé et de la justice s'amplifient, car la compréhension de la vie, ainsi que le sens du temps zéro des pharaons et du livre pour sortir au jour, fut perdu dans les forêts des déserts ensablés par le traficotage et dans les montagnes des océans noyés par la préméditation. Ce problème aussi ancestral que moderne et récurrent de politique administrative perdure et cause d'innombrables guerres absurdes, visibles comme invisibles, entre les diverses factions de plus ou moins grande importance. À chaque âge humain, une multitude de groupes humains bons et mauvais émergent, peu persistent. Leur but initial, au-delà de la convoitise personnelle inhérente à la nature humaine, est pourtant généralement noble. Répondre à un problème intemporel à l'aide d'une solution temporelle. Mais ça ne peut pas fonctionner. C'est la même chose avec certains pesticides de synthèse et avec certains OGM qui sont censés résoudre les problèmes agricoles et alimentaires, mais qui en créent de plus graves, notamment des allergies et des perturbations, ou pire, parce qu'ils ne suivent pas les règles de la nature. C'est la même chose avec les emballages et avec leurs encres lorsqu'ils sont toxiques et non biodégradables, ainsi qu'avec certaines classes de médicaments de synthèse qui sont des armes chimiques anti-citoyens, qui au lieu de soigner, détruisent la vie jusqu'à parfois tuer. C'est la même chose avec le monstre invisible de la radioactivité, contrôlé comme incontrôlé, qui irradie et ronge la chair pour tuer, depuis les accidents industriels jusqu'aux examens médicaux. Administrer les affaires humaines, c'est garantir la stabilité de la plupart des phénomènes aléatoires souhaitables tout en réduisant les mauvaises choses et la souffrance. Une administration remplit son contrat lorsque les statistiques d'accidentés, de malades, de plaignants, d'infractions, de corruption et d'injustice baissent. Sinon, c'est la défaite. Une administration, comme toute organisation, ne survit et ne perdure que si elle respecte les règles et que celles-ci sont correctes. Mais il ne suffit pas d'affirmer que quelque chose est correct, ni de le vouloir, ni de le savoir. Il est nécessaire que cela soit juste et appliqué pour être bon. Sinon, c'est mauvais. Ce qui n'empêche évidemment pas de faire de mauvaises choses avec des choses correctes. L'assertion inverse étant fausse. Si l'univers perdure, c'est parce que les atomes, les molécules, les étoiles et les astres respectent les lois et que celles-ci sont correctes et inaltérables malgré les accidents intrinsèques aux règles et malgré la variabilité de certains paramètres. Un état laïque sans ligne directrice religieuse comme une stable et clairement définie, c'est une administration où tout change dans le temps en fonction des parties en présence qui jouent aux chaises musicales et où chacun fait et fait croire ce qu'il veut n'importe comment. Un état religieux juste et bon, même laïque, n'impose aucun culte particulier autre que la vérité de l'éducation, de la médecine, de la justice et de l'aide aux citoyens libres de vivre, de penser et d'agir comme ils le veulent tant qu'ils ne nuisent pas volontairement à autrui, sachant que faire sans se soucier du volontariat. Le sujet de la religion est de se soucier d'une certaine nature supérieure qu'on appelle divine et de lui rendre un culte. C'est-à-dire cultiver honneur et affection envers cette chose. Sous-section. Ni un, ni plusieurs, ni aucun créateur. Le bug, l'erreur, car tel est le problème, a son origine dans l'ignorance ou dans l'incompréhension d'un concept aussi fondamentalement et aussi désagréable pour la pensée humaine que l'idée de non-localisation et d'incréé. La notion de ni un, ni plusieurs, ni aucun, qui à la fois existe, et à la fois se trouve en dehors de la réalité. Les mathématiciens ont résolu une partie du problème à partir du XVIe siècle à l'aide des nombres complexes qui sont remarquablement liés au nombre pi et au vecteur, et qui se définissent comme étant une somme entre une chose réelle qui existe et une chose imaginaire qui n'existe pas. Le résultat de cette somme peut être un nombre réel pur, un nombre imaginaire pur ou un complexe. Le polythéisme. C'est évidemment de l'idolâtrie, car des dieux, c'est des idoles. Le monothéisme, c'est également de l'idolâtrie, car un dieu, c'est une idole. L'athéisme, c'est le déni de la réalité, car pas de créateur, c'est pas de création. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que le divin? C'est ni un, ni plusieurs, ni aucun. C'est ni le tout, ni le dénombrable, ni le rien. Telle est la source du problème au sujet duquel l'auteur n'a pas trouvé de mots. En effet, il n'y a pas une force de gravitation, ni plusieurs, ni aucune, au sens de quantité. Il y a LA force de gravitation, et les supposés gravitons qui seraient le support particulier événementiel de cette force phénoménale. Cette chose, comme le vent et les étoiles, n'est pas une divinité au sens détourné du terme divin, qui veut dire hors du pouvoir humain. Il n'y a donc pas un dieu, des dieux ou aucun dieu. Il y a donc le créateur, Et ce créateur n'est pas dénombrable en termes d'instances, même considéré à l'infini. Et il n'est pas réductible au néant, car immanent et ayant toujours été pour toujours, ce qui est la définition intrinsèque du grand ensemble des lois de l'univers et de la vie qu'on nomme Dieu ou Allah, pour désigner le mot hébreu Elohim. Si on parle de un Dieu, de des dieux ou de aucun Dieu, alors on parle d'erreurs conceptuelles, d'illusions, de mensonges, ainsi que de formes et d'idoles animales, humaines, mentales, magnétiques ou ectoplasmiques ou autres, qui sont fabriquées par le vivant et exclusivement par son activité biochimique corporelle pensée incluse. Pourtant, on vend encore de telles histoires aux enfants comme aux adultes. De même, n'entend-on pas trop souvent dire qu'un tel est un dieu au lieu de dire génial ? Les forces de l'univers sont immatérielles et non localisables. Elles ne sont pas quelque chose ou quelqu'un quelque part. Elles n'ont pas été créées, car ce sont les lois vectrices qui créent et ordonnent la matière de manière mécanique. La doctrine de la Torah décrit les lois organisatrices de l'univers et de la vie qui existent et qui agissent grâce au pouvoir de Dieu qui sont ces lois mêmes. Le Créateur est l'équation de toutes les équations de la réalité et des imaginaires. C'est l'ensemble des réalisations et des potentiels. Voilà en quelque sorte Elohim, ou disons Dieu puisque tel est l'usage commun. L'ensemble est la somme de toutes les lois. Il est écrit nulle part qu'un Dieu créa quelque chose. Il est écrit au premier verset de la Torah, lettre à lettre, ce qui peut se lire dès le début, Bereshit, soit pour début de, ou à l'aide du tracé, ou à l'image, ou encore plus simplement, pour premier-né. Il s'agit ici de la méiose, et également du don de la Torah, à l'œuf qui a été fécondé. Le premier verset de la Bible est le suivant. Bereshit, bara, Elohim, et ha-shamayim, ve-et ha-aretz. La traduction littérale est la suivante. Au commencement, il a créé Elohim avec les cieux et avec la terre. Les premières lettres du mot significatif de chaque partie forment Resh, Bet, Aleph, Shin, Aleph, c'est-à-dire développement ou multiplication du feu-flamme originel. Aleph Shin, le feu, est à la fois un masculin et un féminin. Le feu est à la fois mâle et femelle. C'est grâce à l'ensemble des forces motrices cellulaires que la fusion des gamètes crée le commencement d'une unité de conscience unique et distincte, ou entité cellulaire animée, capable d'exprimer différentes harmonies mentales. C'est un effet devenant cause au sein de sa propre lignée temporelle. Si on parle de Dieu, on fait référence à l'organisation du tout au sein du rien. L'Éternel est le Dieu de l'être humain, et le sens indiqué par la Torah, car Hachem est le formateur originel de l'être, le Elohim de l'être. Cette expression exclut toute notion de un seul, de plusieurs et de aucun, tout en spécifiant que la chose désignée n'est pas désignable. En simplifié, l'ADN, le tracé, est un cristal vibratoire organique qui n'est pas seulement capable de réplication moléculaire, car il fabrique et anime le corps, la terre aux structures, et l'esprit, les cieux aux fonctions. Au risque de choquer le lecteur, énoncé en Exode 20.2, « Je suis Yud Evav E, ou Éternel, ou Hachem, ton Elohim, ou Dieu », équivaut de manière aussi vraie que mystérieuse à « Je suis, moi le principe qui crée et anime, ADN, ton maître créateur et organisateur, que j'ai transmis grâce à la doctrine que m'a donné Hachem, à toi ». C'est le don de la Torah. Il n'y a rien d'autre que toutes ces choses extraordinaires, merveilleuses et remarquables que sont les photons et toutes les particules agencées en atomes, en minéraux, en astres, en molécules, en gènes, en chromosomes, en cellules vivantes, en champs électromagnétiques, en codes de programmation, en données encodées, etc. Et les lois de ces choses dont la grande cause est quelque A chose inimaginable que la Torah dénomme au pluriel féminin Elohim, en tant que source génératrice. Et que l'on nomme en français par défaut linguistique au singulier masculin Dieu ou Créateur, sans particule de désignation, car il est impossible de montrer Dieu et de le dénombrer, même si le langage humain oblige parfois à utiliser des articles selon le contexte. Sous-section. Le peuple du Shabbat. Historiquement, dans son acception universelle incorrecte, le juif, avec une majuscule, le terme approprié est israélite ou hébreu si on veut être méticuleux, désigne un être qui est l'allié de la doctrine de Dieu, la Torah, et qui fait partie d'un peuple spirituel donné et composé de divers groupes, ayant choisi de s'attacher à la vie, à la bonté et à la justice conquises grâce à des lois précises. Dans ce sens, et selon certaines conditions, est juif, le juif, avec une minuscule, le chrétien ou le musulman. En effet, ce mot provient du vieux français « yéhoud », lui-même issu du mot hébreu « yéhouda » ou « juda ». Yud, e, vav, dalet, e, mot qui est construit depuis le tétragramme yud, e, vav, e, en intercalant devant le dernier e un dalet, désignant ainsi l'étudiant de l'Éternel. Le dalet est la lettre de la royauté et de la pauvreté qui sont déterminées par la lettre du souffle e. Cette position indique que ce qui caractérise fondamentalement l'esprit du juif, c'est l'action résultant du souffle en phase d'expiration qui est l'effet du dernier « et » ayant été préparé lors de l'inspiration qui est la cause du premier « et ». Il est parfois dit que ce mot proviendrait du verbe « yadar »« vav daled chayn » qui signifie « connaître, reconnaître, savoir, apprendre, percevoir, discerner, considérer, révéler ». Au sens racial du terme, le mot « juif » avec une majuscule ne désigne ni une race, ni des gènes spécifiques que nous avons tous plus ou moins et qui peuvent être ou ne pas être exprimés, voire intégrés, par brassage génétique ou exclus suite à l'obsolescence de non-utilisation ou alors assemblés par l'étude et l'entraînement, car les lettres créent des codes. Le mot juif, dans son sens israélite, désigne un état de conscience, car ce sont les mouvements du souffle et divers mécanismes nutritionnels de l'énergie, émotionnels de la sensation et intellectuels du savoir qui activent et désactivent les gènes, au même titre par exemple que la joie et la tristesse, que le bien-être et le stress, et que l'abondance et la restriction. Cependant donc, au regard de la loi stricte, les juifs, avec une minuscule, sont les descendants génétiques via la procréation et spirituels via l'enseignement de Yehuda, l'une des 12 tribus israélites, qui correspondent aux différents grands systèmes religieux du livre et qui forment les 12 secteurs principaux de l'organisation de l'État idéal, juste et prospère. Et cela, de la même manière que le lecteur est à la fois le descendant de sa lignée familiale et de ses éducateurs, mais également de ses congénères, amis comme ennemis, et donc à un certain niveau, de son pays et de ses dirigeants. Au sens tribal, Yehuda est associé à la couleur azur du pectoral du grand prêtre, ce qui correspond au cœur thymus, les autres tribus étant liées aux 11 autres grands centres énergétiques ou couples glandes plexus nerveux, c'est-à-dire les plexus cervical gauche et droite, brachial gauche et droite, cardiaque, solaire, lombaire, sacral gauche et droite, coccygien gauche et droite et le cerveau. Selon l'acceptation étendue, les juifs, en majuscule, c'est-à-dire les Israélites, c'est-à-dire le peuple hébreu, sont les fils, ou plus exactement les enfants, mâles et femelles, au sens spirituel du terme, de Saturne, c'est-à-dire les enfants du Shabbat, et donc d'Abraham, puisque Saturne, peu importe le nom qu'on lui donne, correspond à Abraham qui est le père des fils du Shabbat. Saturne se dit en hébreu Shabbatai, Shin Bet Tav Aleph Yud, qui provient de la contraction du mot Shabbat avec comme. Le mot Saturne veut donc dire comme Shabbat. Saturne est la 6e planète et c'est la seule du système solaire à être plus légère que l'eau. C'est une géante gazeuse fluidique qui possède un système d'anneaux remarquable et sa période de révolution autour du Soleil est de 29 années solaires. Comparée à la marche sur l'eau évoquée dans les évangiles, comparée à l'auréole de sainteté produite par l'activité magnétique du cerveau en méditation. L'être humain n'est habituellement et optimalement capable de commencer à marcher sur les eaux de la sagesse qu'à partir de l'âge de 29 ans. 29 peut s'écrire en hébreu avec les lettres Kaf, tête, qui signifie la force du foyer, c'est-à-dire le Shabbat. Le Sefer Yetzira associe Saturne avec la bouche et avec le Shabbat, car la force de la parole est dans la force du repos. Allée de Ramsès, mot qui veut dire enfant du soleil, à Sukkot, tel qu'indiqué en Shemot 12.37, c'est le trajet de la fête de Pâques, Pessah, à la fête des tentes, Sukkot, ce qui correspond aux révolutions de la Lune autour de la Terre au cours de son trajet autour du Soleil, depuis l'équinoxe du printemps jusqu'à celui de l'automne, soit exactement 6 lunes. Pessah est le moment de la pleine Lune qui suit l'équinoxe de printemps. La pleine Lune est le signe qui marque le début et la fin des cycles. C'est le métronome mensuel. Ce trajet, aller, correspond à l'inspiration de la respiration Shah, et l'expiration retour correspond à la période entre les équinoxes d'automne et de printemps. La respiration Shah, en hébreu, Shin Aleph, signifie la respiration connectée ou la respiration cyclique, c'est-à-dire une respiration où l'inspiration et l'expiration se font sans marquer de temps d'arrêt entre les deux temps. Inspirer active les nerfs, les fluides et les muscles. Expirer fait tourner l'énergie de l'influx nerveux et des fluides corporels. Interrompre à la fois la respiration et le mouvement, c'est suspendre ou ôter la vie. Sous-section, les Caïn et les Abel. Il est écrit en Béréchit ou Genèse 4.8, « Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Littéralement, depuis l'hébreu mot à mot, nous avons « Il aura parlé Caïn, celui qui possède, contre Evel, celui qui respire, son frère, c'est-à-dire son semblable. Il aura apparu, en sous-entendu une lumière, lorsque vous, les hommes, existerez grâce au chant, c'est un mot féminin. » Une variante du mot « bassadé » serait « grâce à une femme ou grâce à un instrument de musique. Il se sera dressé, Caïn, contre Evel, son frère. Il les aura frappés. » Le dernier mot du verset, « Vayahargehu », est construit depuis la racine verbale « e resh gimel », qui veut dire « tuer », auquel on ajoute devant les lettres « vav » et « yud ». Le « yud » indique qu'on transforme le passé, qui est le temps de base du verbe, en futur. La racine verbale veut dire « il a tué ». En rajoutant « yud » devant, ça devient « il tuera ». Le « vav » placé au tout début du terme, de même, permet de transformer un passé en futur et un futur en passé. Donc, nous avons « il tuera » qui est à nouveau transformé, cette fois-ci, du futur au passé. Les traductions classiques et standards traduisent ce mot par « il le tua ». C'est une erreur, parce que nous avons déjà transformé un passé en futur, que l'on retransforme en passé. Il s'agit donc ici d'un futur antérieur. Ensuite, à la fin du mot, nous avons « et vav ». Le « et » désigne la troisième personne féminin, et le « vav » indique que c'est un pluriel. Le sens du dernier mot du verset devient donc « il les aura frappés », les désignant un mot féminin pluriel. Le seul mot féminin du verset, c'est le mot « sadé », chant, ou femme, ou instrument de musique. Ainsi, nous comprenons que Caïn a tué Abel en frappant des instruments de musique, c'est-à-dire en jouant de la musique. Caïn est le premier fils d'Adam et Hava, Ève. Le mot est formé des lettres Kouf, Yud, Nun. Kouf est la nuque mentale, la sagesse discernement. C'est la faculté de différenciation. Le Zohar indique que cette lettre est néfaste car elle amène à la conspiration. Le Yud est la main que porte Caïn sur Ève. Nun est le pouvoir exercé par Caïn sur la vie de Ève. Abel est le deuxième fils. Ce mot est composé des lettres E, Bet, Lamed. E est le souffle de vie et de joie. Bet est la demeure de l'énergie. Le Zohar indique que c'est la lettre de la bénédiction et que le monde est créé par elle. Lamed est la transmission de l'élévation du souffle, l'impulsion ou le désir. On peut remarquer que Caïn est le premier fils et que la conspiration est placée en première lettre, tandis que Hevel est le deuxième fils et que la bénédiction est placée en deuxième lettre. La bénédiction existe donc à cause de l'existence de la conspiration et son but est de l'annuler et de la réparer. Une mise en correspondance lettre à lettre indique que la conspiration est à cause du souffle dirigé vers le désir de convoitise et non de bonté, et que pour réparer la demeure suite à la destruction du temple, la bénédiction passe par la main qui soigne, et donc le juste pouvoir découle de la transmission de la loi. Caïn est celui qui travaille et laboure le champ, l'espace de culture, et qui fait la guerre avec des lances pour le protéger. Il est le soldat, le producteur et le commerçant qui désire le résultat, le gain et le profit. C'est le musicien, le maître en symbole, le scientifique, l'artisan, l'ingénieur, le maçon, etc. Ével est celui qui enseigne et oriente le mouvement et la respiration de l'exaltation divine. Il est le commandant, le guide et le pasteur de l'esprit et de la matière qui désire le bénéfice et le revenu. C'est le conteur, le maître en langage, le philosophe, l'architecte, l'administrateur, le clerc, etc. Caïn parle avec fierté pour accuser Ével à l'aide d'un faux témoignage, afin de justifier son acte qu'il prémédite, car il ne peut rien reprocher à son frère. Mais il estime ne pas recevoir la récompense qu'il mérite pour nourrir ses brebis. Il considère son frère comme un ennemi et il le rend responsable de la perte d'un bénéfice avant même de le recevoir. Les Caïn, ce sont les ouvriers guerriers propriétaires. Ils accusent simplement les Ével, les maîtres du souffle de vie qui instruisent, d'exister et de profiter du champ. Cependant, Dieu n'a pas porté de regard défavorable sur l'offrande des fruits de la terre par Caïn, puisqu'il n'est pas écrit cela. Il est écrit qu'il porta un regard favorable sur le résultat final des moissons qui a nourri le bétail. Ainsi, c'est grâce aux récoltes du champ que les brebis et les sages clercs subsistent. Et c'est parce que les brebis doivent être nourries que les cultivateurs et les commerçants laïcs veillent sur le champ. Sans le champ de culture, sans la scène, sans l'estrade, sans l'instrument de musique, sans le chant, il n'y a pas de brebis. La récompense de Caïn est dans celle de Hevel, c'est-à-dire dans la joie de le voir réussir et d'en être conditionnellement la cause. Mais il ne le voit pas. Il est aveuglé par l'orgueil, tel qu'écrit en Bereshit 4.4-6. Ainsi, sans Caïn, pas de communauté, pas de groupe, c'est le chaos. Sans Hevel, pas de culture, pas de raison. C'est la sauvagerie. L'absence d'organisation, c'est une absence de civilisation et d'humanité. C'est une jungle brutale. Et ce n'est donc pas l'enseignement lui-même qu'il faut glorifier, la connaissance, mais son résultat, les aptitudes et les capacités que cette nourriture procure. Chaque être humain est plus ou moins et à la fois un Caïn et un Ével, qui survit grâce à la nourriture matérielle et spirituelle. Il est écrit en Matthieu et Luc 4.4, que l'être humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela fait référence à Dévarim 8.3. Le but initial de Caïn est pourtant noble, détruire les illusions et les mensonges en lapidant les idoles de son frère. Mais il s'égare, et il lapide son frère jusqu'à l'assassiner. Il lapide ainsi avec des pierres physiques, et non pas avec la parole. Alors l'enveloppe structurelle des cellules et les cycles fonctionnels des chromosomes sont saccagés et anéantis. Il brise physiquement la nuque de son frère avec sa main. Son mobile est la suprême convoitise vaniteuse du pouvoir de vie et de mort. Pourquoi y a-t-il meurtre? Parce que les humains ne se parlent pas, les uns accusant les autres sans parler au juge. Alors la communication est rompue à cause de l'ignorance, tel que mentionné en Bereshit 4.9. Tuer est le procédé, lent ou rapide, visant à détruire la vie d'un être humain afin qu'il n'existe plus. Briser matériellement le dos, tout comme administrer des substances dangereuses pour le cerveau et les organes, relève d'un meurtre commis au passé dans le futur, par manque de sagesse et de bonté. Caïn désire le champ et le bénéfice final pour lui tout seul, mais il se retrouve sans personne à nourrir et sans personne pour le nourrir, tel que mentionné en Bereshit 4.12. Là est sa malédiction qu'il devra réparer. Bereshit 4.15. Le champ, c'est l'étendue, le firmament du verset Bereshit 1.6, le champ de l'interaction électromagnétique portant les photons et la membrane cellulaire portant les protéines nommées ciel. Le champ, c'est le corps, le temple, la terre de Canaan, voir Bereshit 3.23 et 17.8. Tel est le thème des versets codés et cachés de la Torah, obtenu en appliquant la séquence de lettres équidistance ou dilugim, dévoilée il y a un siècle par le rabbin Michael Ben Weissmandel, en utilisant la lettre Nun, qui a valeur 50, qui a le sens de pouvoir. On obtient ainsi un verset par chapitre. Le sujet de ces versets est la Kabbalah de Pessah, le passage de l'ignorance au savoir, qui est le moyen du but de Dieu, c'est-à-dire la survie et le bonheur. Section « Changer le monde ». Sous-section « Les systèmes sont des effets de cause ». La réussite d'un système, d'une entreprise, d'un produit, d'une œuvre ou de sa propre vie ne dépend que de trois choses fondamentales et éternelles qui conditionnent non pas la puissance mais l'étendue de l'impact. Le but et la motivation. Que veulent les autorités et pourquoi? La règle et la loi. Qu'autorise-t-elle et comment? La limite et la frontière. Quel est le périmètre d'action et l'étendue? Tous les systèmes sont des effets de la vie et de l'esprit. Ce sont des spécifications statiques, basées sur l'assemblage abstrait de buts, de règles et de limites en fonction des motivations, des lois et des frontières. Leur emploi réel ou imaginaire permet la création dans l'univers ou dans le mental de jeux et d'activités qui sont animés grâce à des événements interactifs générés en appliquant les règles sur des acteurs inertes et vivants. Les buts, les moyens, les événements et les variations de comportement et d'état des acteurs déterminent l'existence, l'évolution et la survie des systèmes, dont l'existence est fixée par un créateur humain ou divin dans le cas du vivre et non par l'absence ou la présence des acteurs eux-mêmes. Contrairement aux lois de l'univers et de la vie qui sont éternellement stables, relativement au périmètre et à l'échelle d'observation, sinon les astres et les atomes tomberaient, l'apparition ou la disparition d'un système ou d'un acteur, ainsi que la modification des buts et des limites, n'altèrent les règles que si celles-ci ont été spécifiées par des êtres vivants et parce qu'ils les changent. Dans tous les cas, il peut exister des règles dont le rôle est de mettre à jour les règles en fonction des circonstances, des événements ou des temporisations. Le but d'une société civilisée n'est pas le but d'une société barbare qui recherche le profit et la rentabilité financière. Le but de la civilisation est la liberté, la vérité, la connaissance, la bonté, l'honnêteté, la justice, l'entraide, le bien-être, la prospérité, la paix et la joie. Dans un monde juste et civilisé, et peu importe le stade évolutif, chaque individu est instruit, et qu'il travaille ou pas, il a droit à un logement, à la santé, à la justice et à un revenu minimum décent lui permettant de manger, de s'habiller, de se déplacer, de s'instruire et d'avoir des activités personnelles et professionnelles. Sa prime est alors fonction de sa contribution et du risque lié au métier qu'il accepte d'exercer. Telle est la véritable fraternité, la véritable égalité, la véritable administration et la véritable civilisation. Car s'il y a santé et paix, alors il y a vie et civilisation. Et donc justice. Mais s'il y a crime et souffrance, alors il y a sauvagerie et mort. Le plus haut degré de civilisation, ce n'est pas seulement une eau courante saine pour tous, ni des supermarchés ouverts de jour et de nuit, ni un super réseau internet, ni toutes les autres choses superficielles et indispensables. C'est avant tout et obligatoirement un logement minimum et convenable gratuit pour tous, des soins médicaux de qualité gratuits pour tous, de la nourriture saine et sans poison pour tous, de la justice efficace gratuite pour tous et l'accès aux matériaux éducatifs pour tous, enfants comme adultes. Et qui veut un meilleur lieu d'habitation et de la nourriture raffinée ou des loisirs coûteux ou encore devenir administrateur, il lui suffit de travailler selon ses capacités qu'on ne lui enlève pas, quoi qu'il fasse et qui qu'il soit. Et même accusé et condamné, même écarté à vie de la société en cas de haut crime volontaire, il est réhabilité. Les prisons modernes comme ancestrales, ce qu'on en fait, ce qu'on en dit, ce qu'on en montre, sont le reflet du niveau de civilisation. Si les choses vitales sont payantes, si ces nécessités de base sont disponibles selon certains critères subjectifs de mérite, si l'accès à la survie est refusable par les autorités, par les docteurs, par les avocats ou par les organismes humanitaires, si ces choses sont des droits collectivement et arbitrairement accordables ou opposables, même si les décisions sont hors la loi, alors il y a compétition non pour améliorer la société, l'expérience de vie et les émotions, mais pour survivre. Et ça, c'est le but du monde animal où la liberté d'expression n'est qu'un leurre, car alors seuls ceux qui ont l'autorisation d'être entendus accèdent aux scènes. Pour la compétition, il y a le sport, les jeux et les palmarès. Empêcher des gens, même criminels, de vivre en bonne santé et de travailler est meurtrier, car avant tout préjudiciable pour la société. C'est pour ça que si les docteurs et les avocats ont besoin de malades et de problèmes pour payer les frais de leur existence, ils n'ont pas le choix que de commettre des méfaits en fabriquant la souffrance, l'injustice et le désordre. Leurs victimes qui gênent la société sont alors méprisées et accusées d'être indésirables, antisociales et aliénées. Alors la méchanceté et le crime remplissent les hôpitaux et les prisons d'individus torturés. La vie, la santé et la justice ne sont pas des systèmes. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont des principes. Et donc des causes, qu'il vaut mieux essayer de refléter au mieux dans notre société, et ces principes déterminent les états du corps locomoteur qui existe et agit, de l'âme sanguine qui ressent et progresse, et de l'esprit nerveux qui pense et planifie. La politique est ce qui s'occupe de créer, de changer et d'arrêter les systèmes humains en gérant les activités et les évolutions de l'État, les législations des secteurs de la société et les activités éducatives et les jeux de loisirs autorisés. Une société humaine équilibrée et ses piliers que sont la médecine miséricorde et le tribunal rigueur sont des systèmes qui peuvent être bons ou mauvais. Tel est le sens et le but du schéma de l'arbre kabbalistique. La vie, la santé et la justice sont la cause de la civilisation. Le vivre, la médecine et le tribunal sont l'effet de la civilisation. La vie est la plus grande et la plus haute autorité supérieure. L'esprit de la logique est la cause primordiale de tout système. Sous-section, les secrets sont des protections ou des machinations. Le secret signifie beaucoup de choses, mais toujours il désigne soit des mystères de la vie, soit des crimes commis contre la vie. Lorsqu'il est temporaire et de courte durée, c'est une énigme à résoudre. Lorsqu'il concerne la nature et la science, c'est une chose à étudier. Lorsqu'il vise à protéger des données, c'est une information confidentielle. Parfois, il veut dire qu'il y a quelque chose à savoir, mais qu'on n'est pas prêt à le connaître pour le moment, et qu'on doit d'abord progresser et apprendre certaines choses pour nous y préparer. Le secret politique et professionnel est différent de l'ignorance. Au-delà de l'omission, il est dissimulation, pour protéger ou pour comploter. Excepté dans le cadre de pratiques sportives légales, il est intrinsèquement lié à la peur, à la guerre et au crime. Son but est que quelqu'un ou quelques-uns le connaissent, tout en restant inconnu à un ou plusieurs individus, afin de le ou les contrôler. C'est alors un mensonge, un non-choix, et en tant que tel, il est juridiquement et au long terme peu souvent acceptable, comme le démontrent les livres d'histoire. Voici quelques exemples. On peut tenir une information secrète alors qu'elle devrait être connue, parce qu'on pense que la dire engendrerait une réaction non souhaitée ou des ennuis. On a alors créé un secret, même si on n'est pas concerné, et on a décidé à la place d'autrui ce qui était à savoir et à ne pas savoir. Le secret professionnel et tactique peut parfois être légitime, et même nécessaire, voire vital dans les domaines de la santé personnelle et de la sécurité du peuple. Mais garder un secret sur une donnée scientifique et technologique ou sur un produit de consommation ne l'est pas du tout. Le secret des ovnis de l'espace, bien que très terre à terre, concerne des croyances, des espoirs et des peurs tellement nombreuse, farfelue et rarement raisonnable qu'il devient impossible de le démystifier. Disons toutefois que celui-ci relève d'une parabole sur les facultés de la matière organique animée. Le secret des prédicateurs du futur est aussi simple qu'illégitime et mauvais. Tout secret de ce genre est son propre ennemi. C'est la source même du danger et de la peur qui appelle à encore plus de secrets et de peurs, y compris les secrets circonstanciellement nécessaires de sécurité nationale et d'État. En l'absence d'une mondialisation et d'une politique administrative commune, les oppositions internes et externes à chaque pays imposent de fait la nécessité d'un minimum de secrets. L'absence totale de secrets serait une dangereuse négligence irresponsable. La vérité ne fait peur que lorsqu'elle est précédée de secrets, et elle fait peur à cause de ses secrets. Ce n'est pas la vérité qui fait peur, mais les secrets dont la force augmente avec le temps qui les fait devenir des armes incontrôlables. Les seules choses qui méritent d'être tenues secrètes sont celles privées et celles qui peuvent être utilisées pour nuire, telles que les données personnelles, des codes d'accès, des locaux, des objets et des produits dangereux ou critiques. Par exemple, il est normal que n'importe qui ne puisse pas avoir l'accréditation à manipuler des choses dangereuses. Mais il est anormal que les usagers d'un système informatisé ou non ne puissent pas vérifier qu'on ne vole pas des données dont l'utilisation est tenue secrète. Sous-section. Les groupes créent les politiques. Sous-section. Les deux modes élémentaires d'administration. Il n'y a que deux formes de gouvernance au sein des groupes, depuis les duos jusqu'aux Nations Unies en passant par les familles, les entreprises et les pays. L'esclavage primitif et la communauté évoluée. De ces deux formes découlent les diverses variations de contrôle des choses et des êtres sur une échelle graduée dont les extrémités sont l'oligarchie et l'anarchie. La plupart des formes anciennes et modernes de direction militaire, religieuse et laïque sont principalement des oligarchies. Toute organisation est un mélange proportionnel de ces deux éléments. Depuis la dictature imposée par l'élite dirigeante où le chef est le porte-parole, jusqu'à l'anarchie d'un peuple sans gouvernance où l'artiste propage et imprime l'accord commun. Dans les deux cas, il y a une élite qui oriente et instruit, mais c'est au niveau de la prise de décision et de la gestion du pouvoir que la différence est radicale. L'expression de la politique administrative, de la justice et de la santé sur cette échelle dépend de cette élite selon les lois auxquelles elle se soumet, selon les buts qu'elle adopte et selon les responsabilités qu'elle assume. Le mot élite désigne les personnes qui font autorité de par leurs compétences particulières développées dans un domaine donné. C'est à ce niveau que se trouve le problème humain, car c'est toujours l'élite qui oriente la marche des peuples via l'intrinsèque imposition du pouvoir physique, social, financier, émotionnel et intellectuel. Par exemple, du point de vue des enfants, les parents, les enseignants et les personnes plus fortes constituent l'élite. Il n'y a dans ces choses aucune notion de bien et de mal. L'histoire nous montre que tant les dictatures que les anarchies peuvent être bonnes ou mauvaises. Parfois les esclaves sont bien traités et parfois pas. Parfois les communautés fonctionnent correctement et parfois pas. Le problème éternel du bien et du mal est un problème à la fois inné et acquis en raison de la transmission structurelle et fonctionnelle de la mémoire cellulaire, en raison de la difficulté à éduquer et en raison de la propension à vouloir faire ce qu'on veut. La compétence et la bonté des enseignants sont primordiales. Par exemple, la politique administrative entre un parent et son enfant, pour être saine, varie nécessairement de la dictature jusqu'à l'anarchie. Chaque étape est franchie selon l'âge, selon le savoir, selon les compréhensions et selon les facultés. Il en est de même pour les peuples au fur et à mesure qu'évoluent les cultures, tandis que les grands cataclysmes naturels ou humains font redescendre l'être humain de son niveau de liberté totale qu'octroie la civilisation idéale vers l'esclavage représenté par le mythe de l'âge des cavernes. L'évolution générale habituellement observée d'un point de vue d'ensemble posé sur l'histoire des peuples se fera toujours depuis l'esclavage primitif, sauvage et barbare, jusqu'à la théocratie ordonnée, efficace et humaniste, depuis l'oligarchie malveillante jusqu'à l'anarchie bienfaisante. Puisque passer du mal au bien, du chaos à l'ordre, de la confusion à la paix, de la souffrance au bien-être, est habituellement le but commun des membres de l'espèce humaine. Le sujet de ce livre n'étant pas l'opinion politique, Voici tout de même une classification sommaire des régimes politiques qui ne présument d'aucune bonté ou méchanceté, puisqu'on trouve ces choses à tous les niveaux, mais qui révèlent l'efficacité au long terme de l'aptitude à administrer les groupes mis en parallèle avec la disponibilité des droits depuis le petit nombre jusqu'à tous, et pas seulement une certaine quantité, car un sans droit, c'est tout ce qu'ils perdent. L'esclavage. L'État est peu hiérarchisé et administré par un petit nombre de propriétaires amis et ennemis qui détiennent en prison des êtres humains qui servent les intérêts et les volontés de leurs maîtres. C'est la guerre perpétuelle à tous les niveaux de la société et entre les sociétés. La dictature. L'État est administré par un comité restreint de propriétaires qui prennent des décisions pour tous, y compris pour l'ensemble de l'élite qui a peu de contrôle. Il s'agit d'un esclavage fédéral brutal. L'oligarchie. L'État contrôlé et administré par l'élite. À la différence de la dictature où seule la force physique fait foi, c'est ici l'intelligence, plus que la force, qui est promue. Il s'agit d'un esclavage fédératif subtil. La monarchie. L'État est administré par un seul chef, choisi par la majorité de l'élite pour une longue période et selon certains critères arbitraires. Son rôle est d'arbitrer le contrôle exercé par l'élite et de trancher à cas de désaccord. Il peut être destitué s'il échoue, ce qui expose au risque de guerre de groupe en l'absence d'un nouvel arbitre, ainsi qu'aux guerres civiles en sa présence. Il s'agit d'un esclavage militaire centralisé. La démocratie. L'État est compartimenté et administré par des comités d'élus chargés de gérer les affaires à l'aide d'une complexification de la hiérarchie. Il s'agit d'un esclavage militaire décentralisé. La République. L'État est administré par un intérimaire élu pour une courte durée. C'est une monarchie démocratique réservée à l'élite et son but est de réduire les guerres civiles et les risques critiques de conflits de groupe. Mais l'évolution sociale est ralentie et les conflits mineurs s'accumulent sur le long terme. Il s'agit d'un esclavage militaire concilié. Le capitalisme. L'État est soumis à des groupes privés dont le but est la prospérité financière. Le peuple est lui-même considéré comme un produit, et il est conditionné aux actes d'achat et de consommation comme raison de vivre. Il s'agit d'un esclavage militaire technologique mondialiste. Le communisme. L'État monopole divise le peuple en deux classes sociales, les administrateurs et les administrés, vivant au sein d'une seule entreprise globale. Il s'agit d'un esclavage militaire bureaucratique mondialiste. L'anarchie. L'État est un concept où les membres, en se servant eux-mêmes, servent intrinsèquement l'État, la justice et la survie. La seule guerre qui subsiste est celle menée par l'instruction à l'aide de l'information écrite et verbale contre l'ignorance, contre l'oppression, contre le mensonge et contre le crime. Il s'agit d'une communauté égotique mondialiste. La théocratie. L'État est une hiérarchie soumise aux lois de l'univers et de la vie, dans le but d'optimiser efficacement la survie grâce non pas au respect d'une religion, mais des lois universelles et communes à toutes les idéologies et à tous les systèmes bénéfiques. Les législations de l'État sont basées sur ces lois, et chaque membre, simple ou élu, y est soumis, et ne peut pas s'y soustraire. Il s'agit d'une communauté législative humaniste, résultat de la volonté de se soumettre aux lois en vigueur qui organise les choses et la marche de ces choses, sans notion de périmètre spatial ni de nationalité. Sous-section. L'individu anarchiste rejette l'autorité oppressive. Tout comme le mot « Kabbalah » ou « Kabbale » est dans ce livre employé dans son acception originale de « réception de l'instruction » et non dans son sens galvaudé de « conspiration ». Le mot anarchie l'est ici dans son sens politique noble et non avili de chaos, car l'anarchie est la fin de l'ignorance et de la confusion. C'est le début de la compréhension et de la libération de la condition d'enfant animal. Il apparaîtra peut-être au lecteur que la Torah est une doctrine qui est au-delà de l'anarchisme et qui instaure le plus efficace des tribunaux en dévoilant les plus hautes lois de l'ordonnancement des choses, de la liberté et de la survie dans tous les domaines de la vie minérale, végétale, animale et humaine. Marcel Dieu a dit « L'anarchisme, c'est l'ordre sans le gouvernement. c'est la paix sans la violence. C'est le contraire précisément de tout ce qu'on lui reproche, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Armand Robin a dit « L'anarchiste est purifié volontairement par une révolution intérieure de toute pensée et de tout comportement pouvant d'une façon quelconque impliquer domination sur d'autres consciences. » Le premier réflexe de la plupart des gens au sortir de l'esclavage primitif est naturel, vouloir faire ce qu'on veut. Souvent n'importe comment, et parfois, selon l'idéologie à laquelle on adhère, vouloir être libre de tuer pour se défendre de tout et n'importe quoi. Mais ça ne marche pas, car ce n'est pas l'arme le problème, mais son autorisation et son usage. Et le danger du désordre qu'on voulait résoudre sans y arriver, la dictature, même raffinée, réapparaît rapidement tandis que l'hostilité de l'environnement semble se décupler, rendant nécessaire une instruction et une éthique différentes mais nécessaires. Alors l'être sincère et honnête constate qu'il n'a pas d'autre solution pour survivre que de procéder à la recherche de ce qu'il est, et d'investiguer les lois de l'univers et de la vie, en examinant ce qu'il a devant lui, un monde physique, des êtres vivants et un passé historique. Alors s'il dépasse le pouvoir des signes et du conditionnement qui l'entoure, qui l'opprime et qui a imprimé sa pensée, il discerne quelque chose qui le transcende et qui ne relève plus de l'action de la main humaine qui fabrique les maisons et les tables, mais qui détermine la croissance des êtres et le mouvement des choses. Il comprend alors que s'il peut soumettre le vivant et la matière, ou être soumis par autrui et par les intempéries, il est dans tous les cas et en permanence soumis à quelque chose d'invisible et d'immatériel qu'il est impossible de soumettre et qui sont les lois étudiées par les sciences. Alors le véritable anarchiste, qu'il se nomme ainsi ou autrement, constate le danger de la pensée libérale et il comprend que la seule solution au problème humain est d'accorder lui pleinement à autrui le droit d'exister tout en refusant que chacun commette des atteintes volontaires à l'intégrité de tous. Il comprend que la réprimande est aussi nécessaire que l'usage de mesures non nuisibles pour stopper les nuisances et pour punir les criminels, et il rejette toute forme de violence et toute forme d'imposition. Ne pas confondre la violence qui cause des nuisances de l'impact qui cause une réaction. Les coups physiques et le mépris causent des nuisances, mais de bons soins médicaux corporels et des œuvres bénéfiques ne sont pas censés causer des nuisances. Ainsi, il préfère être tué que tué, car il sait la valeur de sa conscience et de la vie humaine. Sa notion de justice et d'assistance est très élevée. Face à un crime, s'il ne peut agir, il s'indignera et parlera, car il sait que sa survie dépend de la survie de tous et de chacun. Selon sa connaissance, il réalisera que la théocratie où les tribunaux sont soumis à la logique et à la vérité est la meilleure forme de gouvernance. Tel est le sens des deux premières des 10 lois. Je suis Yud-Evav-E, ton Elohim, et tu n'auras pas d'autre Elohim, où Yud-Evav-E sont les lois du vivant, et Elohim les lois de l'univers, ainsi que Bereshit 12.1 le mentionne. Va pour toi, non pour un maître ou une idole. L'anarchie est à un haut niveau de respect de la vie privée, à l'image des 3 singes de la sagesse, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, sauf en cas de méfait et d'appel à l'aide. Mais elle considère qu'il n'y a rien de privé ni de secret dans les affaires de l'État, comme des entreprises et des travailleurs. Elle considère également qu'aucun procédé de fabrication n'est secret, et que le brevet n'est ni une arme de guerre financière, ni un moyen de freiner le changement, mais que c'est, en tant que moyen de récompense, un moteur de compétition industrielle et d'innovation culturelle source de revenus grâce aux primes calculées en fonction du service rendu, et les codes informatiques sont de fait sous copyright ouvert, comme le sont les livres. L'anarchie est le rejet des comités de direction administrative publique ou gouvernés par le secret et orientés par des intérêts privés, ce qui implique le rejet de toute gouvernance politique hors la loi. C'est le rejet de toute forme de gestion ayant été identifiée comme mauvaise et non souhaitable, car agissant contre la survie et contre l'évolution. Mais une gérance est obligatoire. Tout groupe nécessite un cadre éducatif, social, médical, professionnel, législatif, exécutif, judiciaire, artistique, etc. L'anarchie est le stade évolutif d'une organisation qui mène inéluctablement à la théocratie au sens exposé dans ce livre, c'est-à-dire à une gouvernance basée sur le respect des lois de la survie et des règles de la communauté. Les lois de la survie sont de respecter les lois de l'univers et de la vie lorsqu'elles font survivre. Les lois de la communauté sont la législation établie afin d'expliquer les grandes lois au cas par cas et à une époque donnée selon la technologie. une organisation anarchique est coordonnée par des comités interdépendants arbitrés par ni un ni plusieurs ni aucun chef, selon une rotation ponctuelle des membres permanents qui étudient et fixent régulièrement les limites, les règles et les objectifs et les finances afin de maintenir en harmonie le peuple qui supervise régulièrement ces comités à l'aide de méthodes de détection des mensonges et des machinations non comme preuve mais comme outil d'investigation afin de déterminer quoi chercher, où et chez qui. Le risque de délit est réduit grâce à cette rétrogérance civique constante, au hasard et de fait impartial. Si un élu, un administrateur, un magistrat, un policier, un docteur, un patron, un salarié ou un artiste sait que chaque mois, n'importe quelle équipe d'humains aléatoires, de n'importe quelle lettre grecque ou autre, peut mettre le nez dans ses affaires non spécifiées confidentielles, dans ses courriers, dans ses relations et dans ses statistiques, et a le pouvoir de le critiquer, voire de procéder à des enquêtes contradictoires approfondies, le crime perd alors son attrait, car il est impossible de corrompre et de duper tout le temps tout le monde, que ce soit au sein des mairies et des hôpitaux, comme des ministères et des préfectures, et même au sein des tribunaux, des cabinets et des entreprises. Employeurs et salariés assument alors pleinement leur poste afin de maintenir une saine prospérité pour tous et non pour l'élite seule, chacun rétribué à sa juste valeur sans disproportion. Il s'agit du modèle administratif le plus efficace. Qu'est-ce qui justifie qu'un employé soit moins ou plus payé qu'un patron hors frais d'activité du service? Le temps travaillé, le niveau de compétence obtenu par le temps passé aux études, la complexité de la tâche, la prime au savoir-faire, la prime au résultat, la prime de responsabilité, la prime de pénibilité, la prime de risque, la prime compensatoire en cas de maladie et d'invalidité, et la prime de l'inventivité. Quoi d'autre sinon l'allocation pour les enfants et les malades à charge? Ces facteurs, additionnés au revenu social minimum de vie de chacun, permettent de calculer équitablement le salaire de n'importe quel adulte au sein d'une société civilisée où chacun est assuré d'être assisté en cas d'accident et d'agression, et où les soins médicaux et les services juridiques sont gratuits car les impôts sont identiquement prélevés chaque mois sur chaque source de revenus petits et grands, ce qui limite la fraude, les gaspillages et la chute des marchés boursiers devenus aussi obsolètes que les contrats d'assurance de base, voiture, maladie, vie, et les problèmes de retraite. Esclavage et civilisation sont intrinsèquement liés, et la première est abolie seulement lorsque la deuxième reconnaît le droit au même revenu vital pour chaque être humain. Anarchisme, peu importe le mot, est employé par l'auteur afin de démonstration parce qu'il n'en a pas trouvé de meilleur, et que ce n'est que grâce à cette étape que l'état d'un peuple arrive au plus haut degré de civilisation, où a lieu le plus grand bien pour tout le monde, et pas seulement pour le petit ou pour le grand nombre. Chacun sait que l'infraction aux 10 lois fondamentales, les blessures, les substances toxiques et les souffrances imposées volontairement, même à un seul, est une chose injuste et criminelle qui œuvre contre la survie du groupe. Sous-section. La théocratie gère efficacement l'anarchie. Le mot théocratie, qui provient de théos et kratie, signifie pouvoir du divin, et plus précisément pouvoir délégué aux lois qui organisent l'univers et le vivant, ce qui implique la connaissance et la considération bénéfique de la vie. En effet, théos étant la loi, la théocratie est le règne de la loi, c'est-à-dire de la législation en vigueur, quelle que soit sa forme et son contenu, pourrait-on dire. C'est le règne de la communication et de la confrontation lorsque les gens d'en haut s'abaissent tandis que les gens d'en bas s'élèvent, pour se rencontrer au milieu afin de respecter les lois du groupe. Ce stade est atteint lorsqu'une gérance rétro-supervisée et arbitrée sans chef particulier a été établie au sein de l'espèce entière. C'est une chose rare, qui nécessite beaucoup de science, de technologie et de justice, car comme toute chose, cela ne dure qu'un temps très court à l'échelle des cycles astronomiques avant qu'un déluge ramène l'espèce en arrière, et peu importe ce qu'on sauve, on perd beaucoup. En théocratie, on réduit la nuisance et on augmente le bien-être de tout le monde, au cas par cas, et en particulier des victimes comme des criminels, car on applique les bonnes lois avec compassion, sans pitié, afin de ne pas nuire. Il n'y a pas de guerre malgré les divergences. On enseigne beaucoup comment sont les choses et les êtres. On discute beaucoup des questions et des problèmes, et on agit beaucoup pour y répondre et les résoudre, car on sait que ces choses proviennent de l'ignorance et des transgressions. Les gens occupent des postes de travail pour lesquels ils sont formés, pas seulement parce qu'ils le méritent ou qu'ils l'ont obtenu via une victoire ou une relation, mais parce qu'ils sont compétents et indispensables. On travaille parce que cela est utile en plus d'être agréable. Celui qui aime le sang est boucher, celui qui aime la justice est juge, celui qui aime donner des ordres est architecte, celui qui ne veut pas en recevoir est enseignant, celui qui aime mentir joue au poker, etc. Encore plus qu'en anarchie, l'honnêteté et la justice envers autrui, ainsi que la liberté et la propriété d'autrui, sont autant choyés que si autrui était nous, et la réprimande remplace le mépris. Grâce à l'éducation, on se comporte tous les uns envers les autres à la fois comme des enfants et comme des parents attentionnés de bonne volonté, et non pas comme de terribles monstres capricieux et intransigeants. Il n'y a aucun secret au sujet de quoi que ce soit, et en particulier au sujet de la vie et de l'État, car il a été compris que le savoir est une nécessité vitale pour chacun et pour tous, et que le secret est la première des choses qui mettent en danger. Seul persiste le mystère relevant de l'ignorance qui est réduite au fur et à mesure que les nouveau-nés avancent en âge, et bien que chacun ne puisse pas tout savoir et tout faire ni s'intéresser à tout, au sein d'une société évoluée et civilisée, chaque adulte sait tout ce que savent les autres au sujet de l'administration et de leur existence. L'être humain éduqué et formé œuvre non pas exclusivement pour le profit et la promotion sociale, mais pour le bien-être et pour le respect des bonnes lois. Il considère avec la même affinité ceux qui exercent toutes sortes de responsabilités, depuis les balayeurs jusqu'aux organisateurs de quoi que ce soit de sérieux ou de ludique. Et l'artiste, comme l'éditeur, ne produisent pas d'œuvres pour manipuler, pour ridiculiser, pour opprimer, pour asservir, pour anéantir et pour profaner, mais pour instruire, pour critiquer, pour motiver, pour libérer, pour sauver et pour célébrer, même si le thème est difficile. Grâce à l'instruction, l'idée anarchiste du rejet de l'organisation sociale trouve enfin le sens du « un pour tous et tous pour un » au sein d'une hiérarchie non basée sur le salaire, mais sur la capacité et la volonté à exercer une responsabilité donnée. Le revenu est alors à la fois nivelé et modelé par le minimum vital et la rétribution liée à l'activité professionnelle. La paresse de l'adulte est bien sûr corrigée comme celle d'un enfant, car on sait que le propre de l'humain est le travail, et que personne ne souhaite sans raison vivre seul et sans logis, parce qu'on sait que le chômage, la souffrance et la misère sont des choses qui se fabriquent directement et indirectement par tout le monde avec la convoitise, le mensonge, la méchanceté, le mépris et les transgressions. Arrivé en théocratie, non par une révolution ponctuelle ou une réforme résultant d'une élection, mais par une mutation individuellement collective telle une propagation virale et bénéfique de la désapprobation, toutes les organisations laïques et religieuses disparaissent comme on balaye des illusions sous la seule action de la vérité, et les idéologies s'effacent alors comme on gomme des phrases mal rédigées. Il ne reste que la loi et l'État, c'est-à-dire les écoles, les tribunaux, les groupes de réflexion œuvrant pour l'étude et la connaissance des choses, et les comités de gestion des différents secteurs de la société. Le but de la théocratie étant de faire vivre la bonté, la vérité, la justice et le bien-être de tous, à ce stade, il n'y a plus d'État policier, ni d'injustice et peu de crimes, car il y a un État protecteur, juste, honnête et équitable, en qui on peut faire confiance, car il remplit son contrat et porte immédiatement assistance aux personnes en danger grâce à ses systèmes médico-sociaux et juridiques judiciaires. À ce niveau d'évolution, le meilleur de chaque système politique fusionne pour laisser exprimer le meilleur de l'humain et pour réprimer la malveillance. Et alors l'individu, le couple, le groupe et l'espèce se trouvent à ce niveau nommé utopie, impossible à atteindre dans l'absolu, seulement dans le particulier, car chaque naissance est un nouvel univers qui doit apprendre à se conquérir pour conquérir son environnement qu'il partage avec ses congénères. C'est l'information et la formation, grâce à l'accès et à la transmission des connaissances, via les technologies de communication, qui déterminent l'évolution depuis l'esclavage de l'ignorance jusqu'à la liberté de la théocratie. Il est notable que passer de l'esclavage à la théocratie revient pour le peuple à passer de la possible révolte permanente à la certitude de pas de révolte du tout, puisque c'est passé de la guerre totale à la paix globale. Mais les administrateurs ne comprennent cela que lorsqu'ils atteignent le niveau d'évolution et de civilisation requis pour réaliser que considérer les administrés comme des ennemis est une erreur résultant de leurs propres conditions sociales de fait périlleuses car dysfonctionnelles. Cela se produit parfois en moins d'une vie, mais souvent plusieurs générations sont nécessaires. Il est également remarquable que la psychiatrie chimique actuelle est au niveau de la dictature criminelle, tandis qu'Internet relève de l'anarchie élitiste, quoique les fournisseurs d'accès puissent illégalement décider de ne plus fournir le service de connexion, d'en manipuler les flux ou de les brider. Lorsqu'on veut mettre en place la technologie, il faut assumer l'anarchie qui en découle intrinsèquement. Certains rêvent de corps contrôlés et maniés via des machines et des puces implantées dans le cerveau, mais c'est au long terme impossible à faire accepter au peuple comme aux élites, à moins de considérer une partie de l'espèce comme une espèce bétail, non humaine, et de se situer au niveau de l'esclavage brutal, ce qui ne peut qu'entraîner la chute d'une telle organisation. Le chemin de l'évolution humaine vers la civilisation idéale est rude et long, et souvent interrompu par les catastrophes naturelles et humaines, mais il est inéluctable car inscrit dans les gènes depuis l'origine. Lorsque l'espèce subit de grandes pertes via les grands cataclysmes, de nombreuses générations sont nécessaires pour que la classe dirigeante évolue et prenne conscience que malgré ses pouvoirs, ses positions et ses finances, chaque être humain est à la fois unique et non identique, et à la fois semblable et égal. Et ce n'est pas parce qu'un tel est expert en outils d'artisanat ou en décision juridique, ni parce qu'un tel a des muscles forts comme un bœuf ou l'esprit agile comme l'éclair, ni même parce qu'un tel est né d'une sans-abri ou d'un milliardaire, que cela implique une supériorité ou une infériorité en tant qu'individu, mais que c'est justement la différence qui permet à une société de s'organiser et de se civiliser, parce que les facultés et les goûts sont variés. Contrairement à l'opinion majoritairement commune aux élus qui estiment que les peuples sont les adversaires à encadrer par tous les moyens, selon la science, la qualité dynamique d'un objet, d'un être, d'un groupe, d'un peuple et d'une espèce n'est pas sa composition et sa masse nommée quantité, mais son type, sa direction et son impulsion. Bien sûr qu'il faut contrôler et protéger et surveiller la population au sein des lieux publics, communautaires et administratifs, ainsi que des réseaux sociaux, mais dans le sens de prendre soin selon les règles de la civilisation et du respect de la vie privée, car dans tout but, le moyen détermine ce but. Quelle est la situation en France et au sein de la plupart des pays des Nations Unies et d'ailleurs? L'espèce humaine actuelle en est à une oligarchie pseudo-démocratique qui s'essaye à l'anarchie tout en maintenant un esclavage imposé par des humains où les constitutions, les législations et les chartes des droits des humains ne sont pas respectées, et cela est dans l'ensemble considéré comme normal, même si les lois en vigueur disent que cela ne l'est pas. Sous-section. Les élus façonnent les États et les religions. L'auteur considère le postulat suivant. Il n'y a pas de vérité plus haute que la Torah hébraïque, sinon ce qui est nommé Elohim et Yud-Heh-Vav-Heh, et qui désigne respectivement l'ensemble et le sous-ensemble des lois physiques qui régissent l'univers et le vivant. La doctrine décrit ces lois, et donc dans le principe avec des termes simples et basiques, toutes les sciences majeures, toutes les technologies importantes et tous les systèmes de pensée humains principaux, passés, présents et futurs, qu'ils soient bons et aident à faire survivre ou qu'ils soient mauvais et fassent succomber. Le pouvoir de ces lois et donc de ces mots qui prescrivent leur étude et la volonté d'en faire une optique de vie, afin de faire de bonnes actions et de ne pas faire de mauvaises actions, et de modeler les individus et les organisations qui ont dans tous les cas le libre arbitre de commettre des bienfaits ou des crimes, et dont les versets décrivent les conséquences d'une manière aussi implacable que certaine. L'objectif premier du livre Le problème religieux est de développer cette assertion. La tradition ésotérique, dont l'action est l'initiation, est une vulgarisation avancée de la science destinée aux masses et aux peuples. Son but est d'instruire et de sélectionner. Si les traductions et les interprétations des textes fondateurs de nos sociétés occidentales comme orientales sont fausses, alors c'est toutes les fondations qui sont corrompues, et quiconque prétend détenir le véritable sens d'un texte sacré ou législatif, et affirme connaître les volontés de ce texte sans se référer au texte originel comme preuve d'un point de vue depuis le périmètre d'un siècle orienté vers le centre, poursuit volontairement ou involontairement un but qui est souvent contre ce texte, contre la vérité et contre la vie. La séparation de l'État de la religion peut être une bonne chose, même illusoire et hypocrite, si les choses sont bien faites d'une manière correcte, efficace et bienveillante. Mais lorsque l'État cache et ment sur la nature de sa religion, de l'être humain et de la vie, et qu'il privatise au nom de la compétition et de la liberté les systèmes médico-sociaux et juridiques judiciaires qui ne sont plus gérés avec l'impôt et la charité, alors l'industrie des combines rusées et des poisons cachés devient ainsi et malheureusement un pilier qui piège toute la société qui s'effondrerait sans lui, puisque la route choisie est la mauvaise voie de la mort et non de la vie. Car le but d'une entreprise médico-sociale ou juridique judiciaire privée n'est pas d'aider, mais de prendre. Et même à but non lucratif, l'aide devient un arbitraire d'intérêt ou d'opinion, et non pas ce qu'elle est, un droit légal obligatoirement administré en toutes circonstances et en tout lieu à tous. En santé et en justice, humanitaire inclus, le seul moyen de prospérer dans le privé, c'est de rendre les gens malades et de faire en sorte qu'ils aient des problèmes. Dans le public, c'est de soigner tout le monde et de résoudre les problèmes. Ce n'est pas la nécessaire concurrence, ni la recherche, le problème, mais la délégation dissociée. Tout est religion. Toute communauté est religieuse. Tout groupe est religieux. Le mot religieux veut dire ce qui relie. Ce qui relie est le mode de pensée, les buts et les moyens. Un État a obligatoirement une religion, un mode de pensée, une ligne de conduite qui existe par-delà les partis politiques et les idées, afin que la politique administrative maintienne un relatif ordre du pays élection après élection. Affirmer qu'un État peut exister sans avoir de religion est une hypocrisie. L'État idéal, c'est celui dont on connaît la religion, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire, et qui accorde le droit d'exister aux autres, du moment que toutes ne commettent ni crime ni attentat à la vie. Politique administrative d'un pays est synonyme de religion d'État. La santé, le social et la justice sont par définition égaux à des services publics gratuits financés par l'impôt. Le libéralisme n'est pas applicable à ces domaines, et les civilisations dites anciennes le savaient très bien. Ça ne marche pas, car la privatisation de ces choses, même partiellement, à l'aide d'organismes privés, même sous contrat d'État, entraîne obligatoirement des problèmes. Assurer une chose particulière et personnelle, comme par exemple une œuvre artistique non inscrite au patrimoine national ou mondial, ou encore par exemple les mains d'un pianiste de grande renommée, est un droit nécessaire. Mais assurer la vie d'une personne comme d'une entreprise, par exemple avec des contrats d'habitation, accident, voiture et juridique judiciaire, est incohérent et inadmissible, car protéger la vie et assurer la sécurité et la justice des citoyens est le rôle contractuel de l'État d'un pays, et c'est la mission de l'Union mondiale des États. Ce n'est pas la prérogative de gens de multinationales financières privées qui sont dans un tel cas la seule véritable chose que l'État protège afin de protéger les activités douteuses et hypocrites de l'administration. Le corps humain n'est pas un bien matériel, mais c'est ce que les autorités de la planète en font. La notion d'assurance privée est la notion d'un État qui ne garantit ni la sécurité de sa population ni le respect des lois, car il entraîne tous ses secteurs dans la criminalité. L'argent du trésor public provenant du travail et de la finance, qui paye les services médicaux, les services sociaux, les services judiciaires, les services de force de l'ordre, les services administratifs, est ainsi détourné. La laïcité dans sa forme actuelle, comme les États religieux et non religieux dans leurs formes ancestrales, sont impropres à l'harmonie et à la paix, à la liberté et à la prospérité, et donc à la civilisation, qui n'est pas une question d'argent mais de ressources et d'organisation. Soit l'État est confondu avec le peuple et agit dans l'intérêt de tous, soit il imagine être dissocié et agit contre lui-même en créant deux mondes dans son sein. L'indépendance n'existe pas, c'est un leurre, car tout est lié. Le mensonge et le crime ne délient rien, car ils nient la cohésion. Il apparaît donc évident, au vu des données actuelles au sujet de notre monde, que la mise à jour des logiciels humains grâce au retour à la source de vérité et de l'éthique à la fois scientifique et religieuse est vitale pour le genre humain, car toute religion et toute organisation a son origine dans une science éternelle mais majoritairement perdue. Et le seul moyen de changer le monde, c'est de changer les autorités. Ceux qui pensent et disent le contraire sont des menteurs ignorants ou stupides, piégés ou coupables. Religion ou laïcité n'est pas la question, car séparer l'esprit de la matière est une erreur fondamentale irréalisable, car il est impossible de séparer le mouvement de l'objet, l'impulsion de l'action. Technologie ou pas de technologie n'est pas non plus le problème. Quelles sont les intentions des autorités et des citoyens? Que font les propriétaires de leurs légitimes possessions? Que font les employés de leurs compétences spécifiques? Les ordres sont-ils légaux ou légitimes? Les capitaux sont-ils justes ou bien utilisés? Les tribunaux sont-ils impartiaux, équitables, agiles et efficaces? Telles sont les questions fondamentales qui déterminent la vie de la civilisation une fois qu'ont été instaurés des systèmes médico-sociaux et juridiques judiciaires bons, corrects et efficaces. Car lorsqu'une organisation protège un de ses membres qui commet un crime, c'est toute l'organisation qui est coupable et qui sombre pour disparaître dans le puits du déni. En France, 50% des adultes vivent avec moins de 1600 euros, 14% avec moins de 1000 euros, 10% vivent avec 3000 à 7000 euros, 1% avec de 7000 à 18000 euros, 0,1% vivent avec 18000 à 55000 euros et 0,01% vivent avec plus. La population SDF aurait augmenté de 40% en une dizaine d'années. Le problème humain et le problème religieux sont un seul et même problème. La nuisance causée par la convoitise, par le mensonge, par le crime et par la souffrance, choses qui proviennent de l'ignorance et de la méchanceté. Tous les criminels, même s'ils savent beaucoup de choses, sont ignorants de quelque chose. Ils ignorent qu'ils ont le choix de bien agir ou de mal agir, et que le seul choix stable et rentable sur le long terme qui offre tous les bons choix est de ne pas commettre de nuisance et de réparer. En général, ils disent qu'ils n'ont pas le choix, alors les victimes ne l'ont pas non plus. Alors certaines organisations lancent jour après jour des appels aux dons pour lutter contre les maladies dégénératives en tout genre, souvent fabriquées par leurs actes et par leurs poisons, qui attaquent le système nerveux et le corps. Rhumatisme, troubles de la personnalité, épilepsie, Parkinson, Alzheimer, démence, cancer, etc. Tandis que les statistiques éparses et millénaires explosent de records en records en quelques décennies, que les grands comptes bancaires se remplissent des gains de la souffrance, et que les médias mentent tout en diffusant des reportages sur la chimie qui tue, en générant la dette des peuples à l'aide de crédits d'argent fictifs au nom de la loi junglesque du plus fort. Bien sûr qu'il faut faire de la recherche, qu'il faut mettre au point des médicaments naturels comme de synthèse, et qu'il faut aider les malades, car les gens d'en haut comme d'en bas veulent une médecine efficace. Mais avant tout, il faut arrêter de faire de mauvaises expériences sur les êtres vivants, animaux comme humains. Il faut arrêter la sélection par la résistance au poison, et il faut bannir les services de la justice secrète. L'être humain n'est un produit expérimental et financier que pour des criminels. Section. Les fratricides nécessitent une résolution internationale. Sous-sous-section. Énoncé d'un problème planétaire critique. Dans les pays se disant civilisés, les systèmes médico-sociaux et juridiques judiciaires, même en partie fonctionnarisés, sont délégués à des organisations privées à but lucratif qui représentent les avocats, les docteurs, les dentistes, les chimistes, les pharmaciens, les travailleurs sociaux, etc. Sous-sous-section. Constat d'une logique mondiale défectueuse. Une partie de l'impôt n'étant pas utilisée pour financer intégralement ces systèmes, mais pour d'autres choses, les gens qui créent, organisent, entretiennent et arrêtent ces structures administratives, industrielles et associatives ont besoin d'argent pour manger et survivre. Ils ont besoin de personnes malades, souffrantes, victimes, délinquantes, indigentes et sans domicile, etc. Ainsi, au lieu de les résoudre pour le plus grand bien de tout le monde, sans qu'un bénéfice légitime et contre nature en soit retiré, sinon la juste rétribution du travail accompli, ce sont des problèmes qui sont fabriqués afin de les gérer dans le but de retirer des bénéfices financiers de leur résolution. Sous-sous-section. Considération d'une conséquence dramatique. Les systèmes médico-sociaux et juridiques judiciaires actuels fabriquent des malades et des personnes à problème qualifiés d'asociales qui vont inévitablement causer des ennuis et déranger leur entourage, et qui au mieux se retrouveront au tribunal accusés de ce qu'on leur fait, condamnés de quelque chose, voire placés sous tutelle ou pire, méprisés et éliminés par la société qui refuse d'entendre raison sans qu'aucune personne particulière ne dirige cela ni sinon la majorité. Sous-sous-section. Identification d'une cause basique. La source de ce blasphème envers la vie est une mauvaise construction consécutive à la dernière séparation de l'État et de la religion, et non pas cette séparation elle-même, car un État laïque est conceptuellement aussi légitime qu'un État religieux du moment que dans les deux cas, la santé et la justice sont entièrement des services publics gratuits, que les lois sont bonnes et sont respectées, et que chacun est libre d'étudier et de choisir tel ou tel système spirituel non criminel qui lui convient, afin de travailler et de vivre en paix. Et même si des méfaits sont commis, les coupables sont bien traités. Alors la loi est d'éducation, c'est ça la base de la civilisation, rien d'autre. Sous-section. Identification d'un piège à tous les niveaux. La plupart des différents acteurs de ces systèmes sont piégés à l'intérieur d'une vaste et délirante politique administrative aberrée. Ils n'ont pas le choix que d'agir selon les directives hiérarchiques. Leur survie en dépend, et afin de justifier leur existence, ils y trouvent une motivation et un plaisir. Mais ils sont aussi victimes que leurs victimes, que vaniteusement ils considèrent inférieures, afin de ne pas admettre qu'ils se rabaissent à de l'infamie. Alors les services publics n'œuvrent pas pour la protection et la défense du peuple, mais pour celle de ces systèmes qui sont malheureusement devenus une raison d'être et qui détournent l'argent public de son usage. Sous-section. Proposition d'une solution élémentaire. Il est vital de déprivatiser tous les rouages des systèmes médico-sociaux et juridiques judiciaires afin qu'ils soient ce que les législations disent qu'ils sont, des services publics gratuits, obligatoirement prodigués aux personnes nécessiteuses, sans discrimination, sans mensonge, sans obstruction et sans malversation. Cela requiert une restructuration de l'organisation de nos sociétés et donc de leur système banque-assurance-finance, ainsi que la création d'une haute autorité de contrôle ayant pouvoir d'empêcher que les lois ne soient pas appliquées et que des attentats à la vie ne soient commis sous couvert de légalité en réalité très illégale. Non, cette haute autorité impartiale n'existe pas. L'application de cette solution implique de définir les religions accréditées, c'est-à-dire les différents groupes éducatifs et politiques humains qui ont une vision plus ou moins différente sur la marche des choses et sur l'organisation de l'État, comme étant des services publics de l'État, et non des entreprises privées ou des organisations secrètes séparées de l'autorité. L'autorité peut-elle exister séparée de l'autorité ? Pourquoi les élus et les artistes et les patrons qui sont employés par l'administration afin de faire fonctionner la société seraient-ils les fruits de religions non contrôlées cachées derrière des écoles publiques et privées pour les enfants et pour les adultes? Toute école est religieuse, qu'elle le dise ou pas, qu'elle le montre ou pas. Il faut savoir que la religion de l'État en France et de la grande majorité des États du monde est l'infâme psychiatrie. C'est la vérité et le savoir qui résout le problème de l'idolâtrie, pas les guerres ni les crimes. Et pour le résoudre, il faut soigner les malades et les faire témoigner en public. Les faire souffrir n'arrange rien, car chaque vie est essentielle, chaque être est important, depuis le nouveau-né jusqu'au vieillard, depuis le chômeur jusqu'au patron, depuis le sans-abri jusqu'au gouverneur. Un peuple prospère si et seulement si ses administrateurs se comportent en parents bienveillants envers chacun des membres, sinon c'est l'échec assuré. Sous-section. Publication d'un livre pour convaincre. Les métiers de la santé, de l'aide et de la justice, et en particulier celui de docteur, sont les plus importants, les plus sérieux, les plus difficiles, les plus éreintants, les plus honorables et les plus gratifiants, les plus admirables et les plus extraordinaires des métiers. Ils sont l'alpha et l'oméga de la civilisation de l'État, et ils n'admettent aucune imposture. Un monde où tous les secteurs de la vie sont basés sur la capitalisation de la santé, de l'aide et de la justice, et sont fondés sur l'augmentation du nombre des malades et des délinquants, ne peut que sombrer déficit après déficit, crise après crise, car tous les acteurs sont intrinsèquement et de fait hors la loi. Il est nécessaire et vital pour l'espèce humaine de réorienter non seulement les politiques administratives locales, régionales et nationales, mais avant tout mondiales, car c'est l'union à ce niveau qui détermine le cap. Une législation qui n'est pas appliquée à tous de manière uniforme et conforme ne sert, avec la surveillance, qu'à protéger ceux qui causent des nuisances, et cela engendre au long terme l'échec et l'effondrement, puisque lorsqu'on ne respecte pas les lois, les choses vont mal. Les docteurs et les avocats, comme les enseignants et les bénévoles, etc., sont par définition des fonctionnaires d'un groupe autorisé au sein de l'État, dont le but n'est pas le gain financier mais la dépense, car c'est investir dans la bonne santé de l'ensemble de la population qui assure sa prospérité, y compris celle des fonctionnaires. Le refus individuel de soigner n'est autorisable qu'avec l'appui d'un comité qui, après avoir discuté du motif alors rendu public, le soumettra à un juge, tandis que le refus collectif est prohibé car crime organisé. Telle est la loi humaine en vigueur. D'un point de vue politique, les mensonges servent à créer la polémique dont la seule finalité est de détourner l'attention des choses répréhensibles que l'on accomplit, car lorsqu'on discute de la réalité et de la non-réalité d'une chose, on ne discute pas des propriétés et des usages de cette chose, mais seulement de son existence. Cet ouvrage est un traité de l'occultisme, car même s'il concerne tout le monde, il s'adresse en première instance aux initiés et aux élites, c'est-à-dire aux groupes, aux organisations, aux autorités et aux élus qui gouvernent, manient et déterminent les affaires humaines, et qui gèrent les moyens et les armes de création et de destruction, car c'est à ce niveau que se trouve l'énoncé et la solution du problème humain original, dont la Torah est le meilleur des antidotes. Le mal qui se nourrit du mépris, de la haine, du conflit, de la guerre, de la maladie, de la souffrance et du désespoir en fabriquant ces choses. L'auteur a conscience que rares sont les dirigeants actuels qui liront ces lignes, qui les concernent directement, mais il est certain qu'ils ne pourront pas les ignorer, car ils n'ont jamais eu, ils n'ont pas, et ils n'auront jamais, le monopole ni du savoir ni de la vie, seulement des hautes instances architecturales et des cours de justice.